J'ai compté fermement sur le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc, il a rendu ma démarche assurée. Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup en seront témoins, ils reconnaîtront l'autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. Psaume 40.2-4. Bonjour à tous. Je m'appelle Bernard et je suis de Montréal. J'ai eu 41 ans en janvier 2005 et je suis un chrétien né de nouveau et surtout lavé dans le sang de Jésus. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me suis finalement décidé à écrire mon témoignage. Ce n'est pas quelque chose de facile à raconter et je suis conscient que certains vont peut-être me juger, mais je crois que ça en vaut la peine pour ceux que le Seigneur va toucher. Je pourrais vraiment écrire un livre sur ma vie, tellement j'ai vécu de choses, mais je vais résumer mon histoire un peu. Chacun des événements que je raconte a son importance, car ils ont eu un impact sur ma vie. Seigneur Jésus, je veux te remettre ce témoignage à tes pieds pour que ce soit fait pour ta gloire seulement, pour que ton beau et grand nom soit élevé au-dessus de toutes choses, car tu es digne de toutes mes louanges. Tu es merveilleux, Seigneur, et je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Quel Dieu fidèle tu es! Que ta bonté est grande pour tes enfants. Sans toi, je serais perdu loin dans mon péché, mais tu m'as délivré de mes chaînes qui me rendaient captif, tu m'as libéré de l'oppression qui m'avait envahi. Je veux proclamer à tous que oui, Dieu délivre quand on se tourne vers lui de tout notre cœur. Seigneur, puisse mes paroles communiquer une grâce à ceux qui vont me lire et puisses-tu toucher les cœurs brisés et meurtris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon histoire n'est vraiment pas ordinaire. J'ai eu une enfance horrible. Mon père était alcoolique, agressif et très violent. Quelquefois, on se faisait battre très durement. Ma mère était gentille mais plutôt passive. J'ai un frère de 4 ans, mon aîné, et une sœur plus jeune que moi de 1 an. Nous avons tous goûté à la médecine de mon père. Il y avait un climat constant de chicane et les paroles de mépris de mon père m'ont beaucoup blessée. Beaucoup de critiques, de gestes et de paroles pour nous abaisser. Bref, il n'y avait pas d'amour chez moi. La situation a commencé à vraiment dégénérer quand j'avais environ 10 ans. Mon père arrivait souvent en état d'ébriété et c'était souvent la chicane, avec ma mère jusqu'aux petites heures le matin. On ne dormait pas bien en tout cas. Souvent mon père cherchait à se défouler sur nous pour vider son trop-plein de frustration. Il cherchait n'importe quel prétexte pour amener la discorde et nous battre si nous osions lui répondre. Je me rappelle une fois où il avait battu à coups de pied ma petite sœur devant moi. J'ai été profondément blessée par sa méchanceté. Bien que j'avais peur de lui, je me suis interposée pour la défendre. Mon frère a été celui qui a été le plus battu par mon père et il en a été affecté grandement dans son cœur d'enfant et plus tard dans sa vie d'adulte, il a éprouvé beaucoup de problèmes affectifs et d'estime de lui-même. Entre ma mère et mon père, c'était laid à voir des fois. Ils se chicanaient très souvent et des fois ça finissait dans la violence. Je voyais souvent ma mère pleurer. Une fois ma mère a même ouvert les veines à mon père avec une bouteille de bière cassée devant nous tous. Il y avait tellement de sang sur la table de la cuisine qu'on n'a pas mangé dans la cuisine pendant quelques jours tellement le souvenir était dégoûtant. Je ne pourrai jamais oublier une fois où il m'avait battu tellement violemment que je saignais abondamment de la tête aux pieds. Il me tenait d'une main par le cou en me suspendant haut dans les airs sur le mur alors qu'il me frappait au visage avec son poing de l'autre main. Suite à cette agression ignoble et brutale, quelque chose s'est déclenché en moi. Je le regardais manger et il me dégoûtait totalement. Je n'avais que de la haine et du mépris pour lui. J'avais le désir de le poignarder tellement je le haïssais. Puis je ne sais comment l'expliquer, mais un autre déclic plus profond cette fois-ci s'est fait en moi et cela inconsciemment. Je le regardais et je me disais dans mon âme si c'est un homme, oh, oh, jamais je ne veux pas ressembler à ça. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé tranquillement à rejeter mon identité masculine. Je ne veux pas ici me défouler sur mon père, mais simplement raconter ce que nous avons vécu. Aujourd'hui j'ai pardonné à mon père et je ne lui en veux plus pour le mal qu'il nous a fait. Par la suite, comme un jeu au début, j'ai commencé à me travestir en fille en cachette et j'adorais cela. Il y avait quelque chose qui m'excitait là-dedans et en même temps c'était comme ma zone de confort. Je me sentais tellement bien en fille. J'aimais beaucoup les vêtements de fille et je trouvais les vêtements de garçon vraiment moches. Je trouvais les filles belles et j'ai tout de suite compris que le beau sexe c'était les filles et pas les garçons. Je mettais les vêtements de ma sœur en cachette. Par contre, j'étais attirée par les filles et non par les garçons. J'ai gardé cette partie de moi cachée pendant de nombreuses années en me disant que ce serait mon petit secret, à moi et que jamais personne ne le saurait. Je ne connaissais pas Dieu à cette époque, mais Dieu le savait. L'adolescence. Par la suite, mes parents se sont finalement divorcés, quand j'avais 14 ans, à notre grand soulagement à tous. Ensuite, je suis entrée dans une phase de rébellion, à cause que je me rendais compte que je n'étais pas comme les autres. J'étais vraiment petit et maigre, j'étais beaucoup rejetée à l'école. On se moquait de moi et on m'humiliait et me ridiculisait de toutes sortes de façons, avec des paroles méprisantes. J'étais très complexée avec mes jambes, qui étaient grandes et minces, très semblables à celles d'une fille. On m'appelait Pacados. J'avais beau manger, je restais toujours petit. J'étais souvent le dernier choisi quand on faisait des équipes dans les cours d'éducation physique. Je me rappelle particulièrement une fois lors d'une sélection où tout le monde avait été choisi et j'étais le dernier seul devant tous et que le capitaine de l'équipe, qui n'avait pas le choix de me choisir puisque c'était à son tour, se mit à dire à l'autre équipe « Prenez-le, car nous on est complet » et que l'autre équipe répliqua qu'il avait fait leur choix et que c'était à leur tour et qu'ils n'avaient pas le choix de me prendre. Quelle humiliation! Mon estime de moi commençait à en prendre un sérieux coup. Quand ce fut à mon tour de jouer, je me mis à me défouler sur tout le monde avec agressivité. Pas besoin de vous dire que je détestais les cours d'éducation physique. Je me mis à détester les garçons et tout ce qu'ils aimaient faire. Je me mis à devenir très agressif envers eux et je me battais souvent. Dans le quartier défavorisé où je demeurais, on devait courir pour se rendre à l'école pour ne pas se faire battre. Je me suis fait battre souvent par des garçons méchants. J'imaginais souvent que je battais sauvagement des garçons qui m'avaient fait du mal. Il y avait tellement d'agressivité en moi. Par la suite, je tombais dans une phase de boisson et de drogue. Tout ce que je voulais, c'était fuir la réalité à tout prix. La drogue était pour moi un moyen fantastique pour vivre une euphorie intense et fuir cette réalité tellement insupportable. Ça me permettait de refouler cette agressivité en moi. Je me détruisais à petit feu et je devenais de plus en plus comme une locumène. C'était de plus en plus difficile de revenir à la réalité de ce monde pourri. Vers 15 ou 16 ans, je prenais déjà toutes sortes de drogues chimiques très fortes dont du LSD, qui était ma drogue favorite. Je pouvais être gelée presque une journée entière, avec ça et avec des hallucinations incroyables. J'étais presque tout le temps gelée. Je m'étais fait un groupe d'amis musiciens, sympas et un peu mystiques. On aimait beaucoup parler de choses profondes sur le sens de la vie, tout en fumant un joint. On était un gang de drogue et pacifique aux cheveux longs. Le genre peace and love. La quête spirituelle. Puis c'est alors que j'ai découvert que le monde de la drogue était aussi un monde mystique et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui touchait l'ésotérisme, surtout sur la vie après la mort, l'au-delà, la méditation, les voyages astrales, les puissances occultes, la parapsychologie, les maîtres tibétains et leurs pouvoirs secrets. Je me mis à lire tout ce que je pouvais trouver sur ces sujets et je dévorais tout ce que je lisais. Je recherchais un sens à ma vie, je lisais beaucoup des livres de Rampa qui me fascinaient. Puis, je me suis beaucoup intéressée à Bouddha et à tous ses enseignements. Cela me fascinait de savoir que si on suivait ses enseignements, eh bien qu'on puisse accéder à des niveaux supérieurs de conscience et enfin à devenir un dieu, par l'atteinte du nirvana. J'ai cheminé quelque temps dans le bouddhisme, mais j'étais ouvert à tout ce qui était spirituel. La première grande vérité, que j'ai comprise par moi-même, c'est qu'on vit dans un monde de fous dominé par le mal. On est tous des fous, mais à différents degrés. Voilà pourquoi je détestais ce monde si pourri. Je voyais le mal partout et la méchanceté et la convoitise matérielle des gens me répugnaient. Ça ressemble un peu à Romains 3.12, « Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. » Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Ce n'est que plus tard que j'allais comprendre que cette folie s'appelait le péché. J'aurais voulu vivre sur une autre planète. Malgré toutes les faussetés enseignées dans le bouddhisme, il y avait un Bouddha qui m'a beaucoup plu. Il s'appelait Milarepa. Il était plein de compassion pour ceux qui lui faisaient du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais son histoire m'a touchée. Après avoir lu son histoire, le mot amour résonnait dans mon âme. Mais aussi je m'adonnais à des séances de méditation assez souvent. Je lisais des livres encore plus occultes avec des techniques pour développer des pouvoirs surnaturels. Je lisais aussi un livre écrit par des moines tibétains. Je récitais des mantras et diverses incantations. Curieusement, je sentais une grande puissance lors de ces récitations. Je ne me doutais nullement de la puissance occulte derrière tout ça. Aussi, je pratiquais le yoga et je pratiquais les voyages astrales, c'est-à-dire que je me pratiquais à sortir de mon corps pour me promener dans le monde invisible. On m'avait dit que c'était dangereux et de faire attention à cause de certains esprits mauvais qui se promènent dans cette dimension. Aussi, il y avait des choses bizarres qui arrivaient, quelquefois je pouvais savoir exactement certaines choses qui allaient arriver dans le futur. J'ai aussi eu une apparition lors d'une séance de méditation intense. Il semblait que c'était comme un homme asiatique. Ça faisait peur et je me rendais compte que je commençais à m'enfoncer dans quelque chose de très sérieux. En même temps, j'ai toujours continué à me travestir en cachette dans mes moments intimes, mais plus ça allait, plus ça devenait intense. Le grand voyage. Puis un jour de septembre 1982, alors que j'avais 17 ans, j'en ai eu assez et j'ai décidé avec mon meilleur ami André de quitter le Québec et de faire le tour des États-Unis en autostop à la recherche d'un sens à ma vie et surtout de la vérité. On est parti avec nos sacs à dos et $200. Aussi mon ami avait apporté une petite Bible car on s'intéressait à tout ce qui était spirituel. On la lisait le soir autour du feu pour se divertir. On aimait surtout lire l'Apocalypse, car il y avait un côté très mystérieux à ce livre, pour nous qui étions très mystiques. Je me suis dit en moi-même que là où je trouverais l'amour, je trouverais aussi la vérité. Aussi incroyable que cela puisse paraître dès que nous avons manqué d'argent, alors que nous étions au Texas sans ressources, nous avons rencontré des chrétiens pour la première fois. Ils étaient un jeune couple avec leur jeune bébé de 6 mois. Ils nous ont fait monter dans leur auto alors qu'on marchait sur la route et qu'on venait tout juste de manger notre dernière boîte de conserve. Je crois qu'il nous restait 500 dans nos poches. Quel drôle de hasard! Tout de suite, on s'est mis à parler de Dieu ensemble. Je l'ai trouvé vraiment très gentil de nous avoir fait monter nous, qui étions des vagabonds sales. Ils nous ont même invités à prendre une bonne douche, lol, et ensuite à souper chez eux. Ensuite, ils nous ont invités à dormir chez eux et qu'ils nous reconduiraient sur la route le lendemain. Finalement, le lendemain matin, ce monsieur chrétien qui s'appelait Don nous a offert de travailler avec un salaire dans la construction de piscines creusées pour son entreprise et de demeurer chez eux aussi longtemps qu'on voudrait. Wow! Je ne pouvais pas croire que des gens soient aussi gentils que ça sur cette terre. Il nous a même offert les clés de son auto. Don était un ancien héroïnomane qui avait donné sa vie à Jésus-Christ. Lui et sa femme Molly étaient des chrétiens vraiment consacrés à Dieu. On a beaucoup parlé de Dieu ensemble. Nous étions réceptifs, mais on avait un cheminement à faire. Moi, je croyais que tous les chemins menaient à Dieu, mais Don m'a répondu avec Jean 14.6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Je trouvais cela tellement radical et j'étais sceptique, car cela signifiait que des millions de personnes sur cette terre étaient dans l'erreur et donc condamnées à l'enfer. Nous sommes allés à son église pentecôtiste et on a trouvé ça vraiment fanatique de voir tous ces gens chanter les mains dans les airs. Pour nous, c'était comme une secte de gens qui se sont fait laver le cerveau. Ça nous a refroidi, disons. Nous sommes demeurés 2 semaines chez eux et nous avons décidé de partir. Mais quand ce fut le moment du départ, j'étais tellement touchée par leur hospitalité, leur gentillesse et surtout leur amour, que j'ai pleuré dans leurs bras en leur disant adieu et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Juste en écrivant cela 22 ans plus tard, ça me fait encore pleurer tellement ça m'a touchée profondément. J'avais goûté ce qui était le vrai amour de Dieu et cet amour-là m'avait vraiment désarmée. Par la suite, nous avons fait le tour des États-Unis jusqu'en Californie. On vivait en quêtant de l'argent et en allant dans les food banks comme l'Armée du Salut ou les Rescue Missions, des organisations chrétiennes qui offraient de la nourriture. Nous vivions dehors, nous mangions presque toujours en faisant cuire notre nourriture autour d'un feu de camp. On a vu de très beaux paysages, dont l'Arizona avec le désert, les montagnes magnifiques et le Grand Canyon. La voûte étoilée en pleine nuit, les arbres géants en Californie et le vaste océan Pacifique. Absolument splendide. La nature, c'est quelque chose qui te parle sans utiliser de paroles. Il y avait quelque chose de profond et spirituel dans cela. En fait, la nature nous parle d'un créateur, comme le dit le psaume 19 et Romains 1.20. Dans cette nature, on lisait notre petite Bible souvent le soir autour du feu. C'était une belle expérience à vivre et ça nous rapprochait de Dieu. On parlait et méditait beaucoup sur le sens de la vie et sur Dieu. Nous avons rencontré des serpents, a sonneté aussi un ours noir en pleine nuit, alors que nous dormions dans notre tente. Assez éprouvant comme expérience, lol. Curieusement, tous les gens qui nous venaient en aide étaient presque tous des chrétiens. Je me rappelle particulièrement un homme qui nous a fait monter en autostop en Californie. Quand il a su que ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas mangé, il nous a amenés au restaurant et nous a dit « Prenez ce que vous voulez, je vous paye tout ce que vous voulez. » Pas besoin de vous dire qu'on a vraiment bien mangé, lol. Ensuite, il nous a reconduits à San Diego et nous a donné quelque chose comme $70 en nous disant « Je fais ça en cause de celui qui est en haut, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, ça te touche beaucoup plus que n'importe quelle parole. » Ensuite, on a abouti à Venice Beach, près de Santa Monica, et là sur la plage, alors qu'on quêtait pour de l'argent, une belle jeune femme avec son amie est arrivée à moi et m'a demandé si on avait mangé et si on avait une place pour dormir. Je lui ai répondu que non et elle m'a immédiatement serré dans ses bras avec beaucoup d'amour et elle m'a dit « Dieu t'aime. On peut vous emmener à quelque part où ils vont s'occuper de vous. » Je ne pourrai jamais oublier son visage resplendissant comme celui d'un ange descendu du ciel. Elle avait quelque chose de vraiment spécial que je ne pouvais pas expliquer. Elle rayonnait d'une lumière invisible qui éclairait tout son visage. C'était soit une chrétienne vraiment, remplie du Saint-Esprit, ou bien sinon un ange. Chose certaine, elle faisait partie du plan de Dieu pour ma vie. Elle et son amie nous ont conduits dans une communauté chrétienne appelée la Bible Tabernacle. C'était une organisation chrétienne qui s'occupait des démunis en leur offrant gîte et nourriture et enseignement spirituel. Cette organisation vivait entièrement par la foi, en recevant des dons des croyants, pour subvenir aux nombreux besoins pour les autres. Il y avait plus d'une centaine de démunis à cet endroit. Nous ne sommes pas restés longtemps à cet endroit, car ils nous ont offert d'aller travailler dans un ranch, à Canyon Country dans la campagne, à environ 50 km au nord de Los Angeles. Ma conversion à Jésus-Christ. À Canyon Country, il y avait toutes sortes de monde. Des durs à cuire, des criminels, des bandits, des itinérants, des gens durs au passé lourd. Même le superviseur était un tueur avant de devenir un chrétien. Il y avait des règles très strictes. On devait se lever à 5 heures du matin pour lire la Bible pendant une heure, et ensuite le déjeuner et le travail toute la journée jusqu'à 4 heures l'après-midi, sauf le samedi et dimanche. Ensuite, le soir après le souper, il y avait un prédicateur qui venait nous prêcher la parole. Il y en avait un qui venait deux fois par semaine et que je ne pourrais jamais oublier. Il était avancé en âge, mais quel prédicateur! Il avait fait deux crises cardiaques et les docteurs lui avaient dit que la prochaine crise, il en mourait. Faites juste imaginer comment il prêchait sachant que son heure était très proche. Il était vraiment infusé du Saint-Esprit et parlait avec une telle autorité. Je n'avais jamais vu ça de ma vie et même jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas rencontré un tel prédicateur. Il était totalement percutant avec la parole de Dieu, mais aussi quel amour il avait quand il arrivait à la fin de sa prédication et ensuite faisait l'appel pour recevoir Jésus-Christ. Je voyais des vrais durs de durs, des gens qui faisaient peur juste à regarder se lever en larmes et venir en avant pour recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. J'étais très touchée et aussi en état de choc de voir cela. Et puis finalement un jour de janvier 1983, après quelques prédications pareilles, j'étais vraiment brisée en mille miettes et je réalisais que je voulais moi aussi recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Je suis montée en haut sur la montagne tout près et j'ai commencé à confesser mes péchés à Dieu en pleurant abondamment et en lui demandant pardon de tout mon cœur pour tout le mal que j'avais fait et en lui disant que je renonçais au péché dans ma vie et que je reconnaissais son sacrifice sur la croix pour moi. J'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le maître, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Il n'y a pas de mots humains pour décrire ce que j'ai ressenti. Une paix totalement indescriptible, mais aussi un amour immense en moi venant de Dieu. Je suis restée là, je pense bien 2 heures à parler avec Dieu en pleurant de joie. Quand je suis redescendue de la montagne, je n'étais plus le même homme. J'avais rencontré le Seigneur et j'avais enfin trouvé le chemin, la vérité et la vie. J'étais devenue un enfant de Dieu et j'avais un père qui m'aimait pas mal plus que mon père terrestre. J'étais passée de la mort à la vie et j'avais la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis demeurée 4 mois environ à Canyon Country. Je me nourrissais spirituellement à tous les jours et je dévorais la Bible et je priais Dieu à tous les jours. J'aimais beaucoup parler des choses spirituelles avec les autres croyants. Je grandissais et me fortifiais dans le Seigneur. Mon ami André n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Une nuit en songe, j'ai reçu un message du Seigneur le concernant que voici, il comprenait le message dans sa tête mais pas dans son cœur. Il abandonnerait le Seigneur et il retournerait dans son péché avec la boisson et la drogue et qu'il m'abandonnerait comme ami pour aller dans le monde. Je suis allée le voir pour lui faire ce message que j'avais reçu du Seigneur le concernant, mais il ne l'a pas pris au sérieux. Des années plus tard, il est revenu me voir pour me dire que tout ce que je lui avais prophétisé lui était arrivé dans les moindres détails. Je l'ai perdu de vue depuis quelques années, mais j'aimerais beaucoup le revoir un jour et qu'un jour il puisse vraiment comprendre avec son cœur. Il avait été un de mes meilleurs amis pendant de nombreuses années. Les puissances des ténèbres. Puis quelque chose de vraiment bizarre a commencé à prendre place dans ma vie sans que je ne comprenne pourquoi et que je puisse faire quoi que ce soit. Des fois, je me couchais le soir et je faisais des rêves vraiment abominables. Je rêvais que je me faisais agresser sexuellement par des hommes. Je me réveillais le matin et j'étais désemparée et je me sentais sale et surtout très coupable. Je persévérais dans la prière et la lecture de la parole et demandais l'aide au Seigneur. Mais ces rêves persistaient et revenaient sans cesse m'hanter. Je ne voulais pas dire ça à personne, car j'en avais profondément honte. Puis, tranquillement, j'ai commencé à éprouver des fantasmes envers les hommes. Plus ces rêves revenaient, plus je me mettais à désirer les hommes sexuellement. Je me suis mis à prier et demander l'aide au Seigneur pour qu'il enlève ça de moi, mais ça revenait toujours de temps en temps. J'étais un bébé dans la foi, pourquoi cela m'arrivait à moi? Je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, pourtant j'avais donné ma vie à Jésus et je n'avais jamais vraiment été attirée par les hommes avant. J'avais peut-être eu de petites pensées dans le passé, quand je me travestissais, mais rien qui m'amenait à fantasmer sur les mecs. Puis, plus le temps passait, plus ça devenait une véritable obsession intense. Petite parenthèse. Ce n'est que beaucoup plus tard dans ma vie que j'ai découvert que j'étais agressée par des démons, des esprits impurs qui avaient créé des liens très puissants sur moi. Ces liens étaient devenus ce qu'on appelle une forteresse, c'est dès que ces esprits avaient établi une sorte de domination sur moi, mais je n'étais pas possédée par ces esprits, ils ne pouvaient pas entrer en moi, car j'appartenais au Seigneur et j'avais le Saint-Esprit en moi. Par contre, ils pouvaient m'attaquer comme ils le voulaient dans le monde spirituel à cause de ces liens. Ces liens venaient de où? Je n'en suis pas certain, mais peut-être quand j'ai commencé à me travestir quand j'étais un enfant, ou peut-être quand je pratiquais de l'occultisme. Chose certaine, je leur avais donné accès. Je sais que peut-être certains seront sceptiques sur ce que je viens de dire, mais je vous en conjure, croyez-moi, je ne partage pas mon témoignage pour inventer des histoires ou dire des âneries et le Seigneur en est témoin. Ce que je vous ai dit est bien réel, ou du moins croyez à ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6.12. Ça me rendait profondément malheureux. Je suis revenu au Québec après 10 mois aux États-Unis. Je me suis joint à une église chrétienne et j'ai continué à suivre le Seigneur, mais comme un chrétien qui marche dans la défaite, un chrétien tiède et froid sans victoire, et démoli intérieurement. Je suis allé voir le pasteur pour tenter de m'ouvrir à lui, mais il était fermé à m'écouter. De plus, l'église où j'allais ne comprenait pas grand-chose à la guérison et la délivrance spirituelle et aussi à la puissance du Saint-Esprit. Le genre « il faut lire ta Bible et prier et n'oublie pas de venir à l'église le dimanche. Pour le reste, c'est ton affaire. » J'ai ensuite décidé de ne jamais révéler cela à personne à cause de la honte que j'éprouvais et de l'incompréhension que je ne voulais pas subir. Je me suis même acheté des magazines porno avec des femmes pour tenter de rediriger mes désirs sur les femmes. Mais je me sentais coupable avec ça aussi. J'ai simplement décidé d'enfouir cela en moi et nier que j'avais un problème. Je refusais de me l'admettre à moi-même. Un temps de repos. Par la suite, je me suis fait des amis chrétiens et j'ai repris du mieux. Je commençais à me reconsacrer plus intensément au Seigneur, tout en confessant mes péchés à Dieu. C'est tout ce que je pouvais faire que je me disais. Je me suis fait un ami chrétien, très consacré à Dieu qui s'appelait Jacques et qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en Dieu et à remettre ma vie en ordre. Il avait déjà vécu dans l'homosexualité, mais même à lui, je n'ai même pas eu le courage de lui avouer mes combats spirituels sur ça, encore une fois à cause de la honte que j'éprouvais et aussi à cause que je voulais refouler ça en moi-même. Je ne voulais pas m'admettre à moi-même que j'avais ce péché dans ma vie. Je ne lui ai donc jamais parlé de mon travestissement, ni de mon homosexualité. Je suis allée demeurer avec lui pour partager un appartement. Je suis allée dans un camp chrétien tout un été pour servir et je me suis beaucoup approchée du Seigneur, et ça m'a fait du bien et mes mauvais penchants ont presque disparu. Dans le camp, on était baigné de la présence du Seigneur et on avait un bon temps de communion fraternelle et les prédications, les témoignages des chrétiens et les chants de louanges autour du feu de camp me faisaient tellement de bien. Le diable et ses démons ne pouvaient pas m'atteindre aussi facilement. Je ai recommencé à vivre un petit peu. Je me travestissais de moins en moins et ça semblait enfoui loin derrière moi. Je me suis aussi fait baptiser à cette époque-là. Je ne pourrai jamais oublier cela, car je me suis fait baptiser dans un lac sur le bord d'une plage publique devant des centaines de non-croyants par une belle journée de soleil. Ce jour-là, je sentais une belle présence de Dieu en moi. J'ai donné mon témoignage sur un estrade sur la plage et j'ai terminé en disant à tout le monde: Tréma, je vous laisse avec une pensée. Où serez-vous pour l'éternité? Tréma est bien aussi incroyable que cela puisse paraître. À peine une heure après le baptême, un homme s'est noyé à l'endroit exact où on a fait le baptême. Je me suis demandé pourquoi cela est arrivé, mais je crois bien que Dieu s'est servi de cela pour avertir sérieusement les gens qui ont été témoins de tout cela. Par la suite, une série de problèmes très graves m'est arrivé. J'ai commencé à avoir des attaques d'anxiété très graves et des attaques de culpabilité aussi intenses. Je vivais dans l'angoisse totale, tout m'inquiétait, absolument tout jusqu'au lacet de mes souliers. Je me culpabilisais pour tout et rien sans arrêt. Je passais des heures de temps à réfléchir à quelle solution je vais prendre pour tel ou tel problème. Je passais des heures de temps à essayer de me convaincre de ce qui était un péché ou non dans ma vie. Je ne me pardonnais pas d'avoir du péché dans ma vie. Je pensais vraiment que je devenais fou allié. Le diable avait utilisé une autre stratégie pour me détruire la culpabilité et l'angoisse afin de me rendre fou. J'étais ensuite devenu vraiment très dépressif. J'étais presque plus capable de fonctionner. J'aurais voulu mourir. La délivrance. Mais heureusement, j'ai rencontré un docteur et psychiatre chrétien qui aimait aider les personnes en difficulté. Il a vu ma détresse et il a eu compassion de moi et il m'a dit: « Tu traînes un lourd fardeau sur tes épaules, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai répondu que je culpabilisais pour tout et ne me pardonnais pas du péché dans ma vie et aussi que je m'inquiétais de tout. Il a prié avec moi et ensuite il m'a dit quelque chose comme de laisser le contrôle à Dieu sur ma vie. Mais ensuite il a dit: « Il faut que tu apprennes à te pardonner, car Dieu t'a pardonné sur la croix. Maintenant, va dehors devant un grand arbre et imagine que tu es devant le Seigneur Jésus sur la croix et agenouille-toi et dis-lui ceci de tout ton cœur: Seigneur Jésus, j'abandonne tous mes péchés au pied de ta croix, prends-les, je te les donne toi et je les laisse au pied de ta croix. » J'ai fait cela de tout mon cœur en pleurant et j'ai senti une profonde délivrance comme si un poids d'un million de tonnes tombait de sur mes épaules. Je peux vous dire qu'après cela je n'ai plus jamais gardé de la culpabilité en moi. J'avais appris à me pardonner, car Dieu lui m'avait pardonné. J'avais appris à dire: « Seigneur, je me pardonne de ce péché, comme toi tu m'as pardonné. » Je devais simplement confesser mes péchés à Dieu, sachant qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités et bien sûr, faire de mon mieux pour marcher dans l'obéissance. J'ai aussi appris à ne plus me demander si telle ou telle chose que j'ai dite ou que j'ai fait est un péché. Cela n'est pas ma responsabilité, mais c'est celle du Saint-Esprit de me convaincre de ce qui est un péché ou non, comme la parole de Dieu l'enseigne dans Jean 16.13. C'est le travail du Saint-Esprit, pas le mien. Je dois marcher selon la lumière que j'ai reçue et confesser ce que le Saint-Esprit m'aura révélé comme étant un péché. Conclusion de cela, ce fut ma première grosse victoire. Amen. Pour ce qui est de l'inquiétude, le Seigneur m'a appris une autre leçon, très importante: on doit absolument laisser le contrôle à Dieu dans tous les domaines de notre vie et lui faire connaître nos besoins et lui faire confiance qu'il s'occupe de nos soucis, comme le dit Philippiens 4.6 et Matthieu 6.25-34. On doit laisser le Seigneur régner sur notre vie. En fait, il faut arriver à dire: « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je te donne tout et je te fais confiance, que tu prendras soin de moi. » Ça m'a pris plus de temps pour comprendre cette leçon. Ça m'a pris quelques années d'ailleurs. Et ce fut une autre grande victoire dans ma vie. Amen. La chute. Par la suite, tous mes amis chrétiens du groupe de jeunes de mon église se sont mariés du premier jusqu'au dernier, et je me retrouvais seule. Ils m'avaient comme laissé tomber pour leur nouvelle vie de couple. J'avais un intérêt pour une belle jeune fille, mais malheureusement un homme chrétien est venu lui pleurer dans les bras parce que sa blonde l'avait laissé et elle l'a pris en pitié et m'a laissé tomber pour lui. Une autre fois, une autre fille chrétienne m'a refait exactement la même chose. Je suis devenue très frustrée et je me suis sentie oubliée par Dieu. Par la suite, en songe, j'ai eu une apparition du diable absolument terrifiante. J'ai vu un être géant tout blanc, son grand visage était blanc d'une grande beauté, mais son regard était terrifiant, et il y avait une malice indescriptible dans son regard. Je ne pourrai jamais oublier son visage. Il m'a dit « Toi, je vais te cribler comme du fromanger », immédiatement su qui il était, et j'ai eu une grande frayeur, et je me suis mis à crier à Dieu de toutes mes forces. Il a alors disparu. Je ne me rappelle pas avoir eu aussi peur de toute ma vie. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que ce n'était pas un songe banal, sans signification. J'étais dans la frayeur et l'angoisse la plus totale, et je savais pertinemment que le diable avait établi un plan de destruction pour moi et qu'il allait me faire souffrir grandement. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il me voulait pour s'en prendre à moi comme ça au point de venir me le dire en personne? Est-ce qu'il savait des choses sur moi? Peut-être qu'il connaissait mon potentiel et que j'étais une nuisance contre lui. Puis je me suis rappelé du passage où Jésus mettait Pierre en garde contre Satan. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Luc 22.31. Incroyable. Exactement les mêmes mots que j'ai reçus. Pour mon malheur, il n'y a pas de doute, tout cela est authentique. Je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver, mais je n'allais pas tarder à le savoir. Ensuite, je suis devenu très dépressif à cause de la solitude dans laquelle j'étais. C'est alors que j'ai commencé à fréquenter les danseuses nues et à boire pour oublier ma solitude et fuir ma misérable réalité. J'ai aussi recommencé à me travestir et aussi à regarder de la pornographie. C'était en 1988, dans le temps que sont apparus les clubs vidéo et où tous les films porno devenaient disponibles au grand public. Je suis tombée là-dedans, comme ce n'est pas possible. Je louais ça régulièrement et je souillais mon âme avec ça. Je fantasmais autant sur les hommes que sur les femmes. Je me sentais très sale et très éloignée de Dieu. J'avais développé une très forte dépendance avec ça. Je n'allais pas trop souvent à l'église. J'étais très malheureux encore une fois. Je vivais à Gatineau, près d'Ottawa à cette époque, et un jour on m'a offert un poste à Montréal et j'ai accepté avec joie sachant que je quittais cet endroit d'humiliation. Quand je suis arrivée à Montréal à 26 ans, je me suis dit que je vais refaire ma vie et que je vais me défouler au maximum et me laisser aller dans le monde. Je n'allais que très rarement à l'église et ensuite plus du tout. Je me suis inscrit sur une ligne de rencontre et je ne recevais aucun message des femmes. J'imagine que ça les repoussait quand je me décrivais avec mes 5 pieds 6, 1 mètre, 68 et avec un poids de 120 livres environ 50 kilos. Mais finalement un jour une femme m'a enfin répondu. Elle est devenue une copine et ça n'a jamais été plus loin qu'une amitié très décevante. Elle ne m'aimait pas pour ce que j'étais, mais seulement pour ce que je pouvais lui apporter. Elle m'utilisait pour ses besoins. Je me sentais comme un idiot avec elle. Je l'ai laissé tomber et là j'en avais ma claque comme c'est pas possible. Je me suis mis à détester les femmes pour leur superficialité. Mes barrières ont alors commencé à vraiment tomber et j'ai décidé que si les femmes ne voulaient pas de moi, alors peut-être que les hommes me voudront. Je me suis alors inscrit sur une ligne de rencontre pour « hommes seulement ». À ma grande surprise, à tous les jours ma boîte vocale était inondée de messages d'hommes qui étaient intéressés à moi. Je n'en revenais pas. Se peut-il vraiment qu'on s'intéresse à moi ? Au début, j'étais très craintive et ce fut un combat intense dans mon âme avant de rencontrer un mec et de passer à l'acte sur lequel j'avais fantasmé pendant tellement d'années. Je savais que je faisais le mal, mais je voulais vivre mon fantasme en me disant que ce serait une expérience et qu'enfin j'allais arrêter de combattre mes penchants. Je l'ai finalement fait et je me suis sentie très coupable par la suite, mais le pire, c'est que j'avais vraiment aimé ça et j'ai recommencé à 2 autres reprises avec des hommes différents. Je ne voulais plus m'arrêter. Mais le poids de mon péché était tellement intense et j'avais peur du sida. Retour à l'église. J'ai décidé que je devais retourner à l'église et me reconsacrer au Seigneur, sinon j'allais vraiment me perdre. Je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu pour mes abominations et de nouveau je me suis attaché à une nouvelle église et je me suis fait des amis chrétiens. J'ai repris du mieux et cela semblait se replacer dans ma vie. Mais j'étais demeuré un chrétien tiède qui marchait dans la défaite plus que dans la victoire. Ça me faisait quand même du bien d'avoir des amis chrétiens et de faire des activités. Mais par contre, mes amis chrétiens étaient des chrétiens tiennes tout comme moi. On allait dans les bars et on se défoulait, on buvait, on s'amusait et on draguait les filles et ensuite on allait à l'église le dimanche. On n'avait pas une communion intense avec le Seigneur? Des chrétiens du dimanche. J'ai cheminé comme ça. Des fois, on avait des temps où on revenait plus à Dieu, mais rien de vraiment solide. Par contre, de mon côté, j'allais mieux spirituellement. La présence de mes amis m'a certainement aidé à combler ma solitude et ne pas sombrer dans un mal plus profond. Mon mariage. Par la suite, en décembre 1992, à l'âge de 29 ans, j'ai rencontré celle qui allait enfin devenir ma future femme. Elle s'appelait Vanessa, nom fictif, pour protéger l'identité de cette personne et elle était d'origine colombienne. Elle était une chrétienne que j'ai rencontrée à une nouvelle église que je fréquentais. Ça faisait seulement 3 ans qu'elle était arrivée au Canada. Elle était belle et gentille et elle m'a tout de suite attirée. Je trouvais sa famille très sympathique. Nous nous sommes mariés le 9 octobre 1993. Et ce fut l'un des plus beaux souvenirs de ma vie qui avait été si misérable jusque-là. Mais encore une fois, le malin s'est acharné sur moi et sur elle aussi. On s'était mariés beaucoup trop vite sans avoir pris le temps de vraiment bien se connaître dans une amitié saine, vous comprenez. Nous avions beaucoup de blessures dans notre passé chacun de nous deux. Elle avait un problème de dépression et avait de la difficulté à s'adapter à vivre au Canada. Je l'ai beaucoup aidée à reprendre confiance en elle-même et à vaincre sa dépression et aussi à s'adapter au Canada. Mais de mon côté, je trouvais ça très difficile à supporter. On se chicanait très souvent et on ne se comprenait pas du tout. À mon plus grand désespoir, j'avais l'impression de revivre le cauchemar que j'avais vécu dans ma famille. Je n'étais pas capable de supporter les crises de nerfs et les cris et surtout de me faire blesser par des paroles dures. J'étais une personne très fragile et très sensible et ça me démolissait profondément en dedans de mon âme. Je l'ai même quittée pendant 1 mois, tellement je n'étais plus capable de continuer. Bien sûr, j'avais mes torts moi aussi et je manquais de sagesse, mais je crois que ce qui me nuisait le plus, c'est que je n'étais pas un chrétien consacré entièrement au Seigneur. J'ai quand même décidé que je devais tout faire pour supporter cela en espérant qu'elle changerait un jour. Pour moi, le divorce était impensable en tant que chrétien. J'ai supporté beaucoup, mais je ne l'aimais plus. J'étais tellement brisée en dedans de moi. Je n'avais plus beaucoup de désir pour elle et je regardais beaucoup de pornographie en cachette et je me suis remis à me travestir et j'ai même eu des aventures avec des prostituées et des danseuses. Pas facile de vous dire ça. Je me sens tellement moche juste à penser au mal que j'ai fait. Je me sentais tellement mal en dedans face à elle. Puis en 1999, on a eu un enfant qui a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans cette foutue vie. Quand il est venu au monde, j'ai assisté à l'accouchement et j'ai pleuré de joie en voyant ce beau petit bébé qui était mon fils. On l'a appelé Brandon. Il était tellement beau et tellement innocent et il avait tellement besoin de tout notre amour et de nos soins. Cela m'a fait changer et j'ai décidé de donner le meilleur de moi-même. Ça allait beaucoup mieux entre nous deux, et puis enfin nous avons acheté notre première maison. Je voyais enfin la lumière au bout du tunnel, et je me disais que ça irait de mieux en mieux. La destruction. Mais l'ennemi avait un plan bien établi pour me détruire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les chicanes ont repris, mais cette fois-là c'était pire que jamais. Les policiers sont venus chez nous à quelques reprises à cause de nos disputes. Vanessa, mon épouse m'en voulait pour tout, et surtout elle revenait constamment sur mes erreurs du passé. Je sais bien que j'ai mes torts et que j'ai manqué de sagesse dans certaines situations, mais je ne méritais certainement pas cela. Elle faisait de violentes crises de rage en m'insultant et en me criant très fort. Moi, je ne pouvais plus supporter ces crises de rage et surtout de me faire blesser profondément dans mon âme, comme ça par des paroles si dures. Ça me démolissait complètement, car je suis quelqu'un de tellement sensible. Je n'avais absolument plus aucune estime de moi. J'avais beaucoup de difficultés à fonctionner et à faire mon travail, tellement j'étais démolie en dedans. Je n'ai jamais levé la main sur elle par respect, car je suis devenue une personne douce, malgré le lourd passé de ma jeunesse. Je me sentais faiblir gravement dans mon âme de jour en jour. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir mon propre fils victime de tout cela alors qu'il était si petit, à peine 3 ans. Il était témoin de nos disputes et devait endurer cela, lui qui était si jeune et si fragile. Je pensais à ce que j'avais moi-même vécu dans mon enfance face aux disputes de mes parents et jamais je ne voudrais que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu. Je suis allée chercher de l'aide à plusieurs reprises, mais personne ne voulait nous aider sérieusement. Un psychologue chrétien nous a même conseillé le divorce. Au CLSC, on m'a dit qu'il faut qu'il arrive quelque chose de grave pour nous aider. Les pasteurs nous ont été d'aucun secours, ils n'avaient simplement pas la capacité de nous venir en aide. Je ne les blâme pas. Nous étions un cas très lourd. Puis, je n'étais simplement plus capable de prier et de lire ma Bible. Alors, je me suis révoltée contre Dieu et je lui ai dit que je ne croyais plus en sa bonté pour moi et que je lui en voulais qu'il n'intervienne pas pour faire quelque chose. Alors, les pensées de suicide revenaient de plus en plus. Puis, un jour de juillet 2001, lors d'une dispute, la coupe a débordé, la marmite a explosé. J'avais bu presque une bouteille d'alcool fort au complet et n'en pouvant plus de cette réalité insupportable, je me suis dit qu'il fallait mettre une fin à ma misère. J'ai pris une corde et je me suis rendue dans le cabanon dans la cour en arrière de chez moi. J'ai accroché la corde au plafond et je l'ai enroulée autour de mon cou, en pleurant et en disant à Dieu, « Seigneur, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour moi, car je suis au bout de la corde dans tous les sens du terme. » Alors que j'essayais de me pendre et que je commençais à m'étouffer, j'ai entendu les cris de ma femme et de mon petit garçon, qui pleuraient de détresse. Il m'avait découvert par hasard pendu alors que je voulais en finir avec la vie. Je me rappelle m'être retrouvée sur le sol. Ma femme avait coupé la corde. J'ai retrouvé mes sens et puis je me suis mis à lui crier des injures de toutes mes forces en réalisant qu'elle m'avait empêché de mourir. Je lui criais « Pourquoi m'as-tu empêché de mourir ? Si tu ne m'aimes pas, tu aurais eu les assurances et tu aurais profité de la vie, je crois bien que j'ai ameuté tout le voisinage par mes cris. » Je suis partie en colère, en marchant dans le quartier puis la police est venue me retrouver avec l'ambulance. J'ai passé la nuit à l'hôpital sous observation, puis je suis revenue à la maison le lendemain, mais cette fois-là, Bernard était définitivement mort pour moi. J'avais totalement perdu toute forme d'estime de moi-même. J'étais une locumène intérieurement. Totalement détruit. Mais surtout, je m'en voulais vraiment beaucoup que mon petit Brandon, qui n'avait que 3 ans, ait assisté à ma profonde détresse et qu'il ait vu son père pendu au bout d'une corde. Je sais que cela l'a vraiment traumatisé et j'ai eu beaucoup de misère à me le pardonner. Je voyais sa souffrance et j'entendais sans cesse ses pleurs dans ma tête. Aucune personne de l'église n'est venue pour me voir pour m'apporter de l'aide quelconque, à part 2 amis qui m'ont parlé un peu le soir de ma tentative. Comme seul soutien, j'ai eu un droit à une écoute, par téléphone avec une intervenante non chrétienne. Elle était gentille et elle m'a calmé un peu, mais mes problèmes étaient trop gros pour qu'elle comprenne vraiment. Je n'avais plus aucune confiance, à personne et pas même, au pasteur pour aller chercher de l'aide. Ma nouvelle identité, Tania. J'ai fait à peu près 4 mois comme ça, puis je me suis dit que je ne pouvais plus vivre comme ça longtemps et tant qu'à être démolie comme ça et ne plus avoir aucune estime de moi-même, aussi bien faire tout ce que j'avais envie de faire dans le fond de moi-même. C'est alors que j'ai décidé que je devais me reconstruire sous une nouvelle identité et profiter de la vie au maximum pour quelque temps, en me laissant aller dans tout ce que mon cœur désirait, surtout dans le sexe avec les hommes. Mais cette identité ne serait pas Bernard, puisque pour moi Bernard était mort. Cette nouvelle identité serait une femme bien sûr, moi qui luttais depuis mon enfance contre ce penchant de ma personnalité. Je suis donc allée faire du magasinage et je me suis acheté tout ce qu'une belle femme sexy a besoin pour faire une sortie dans un bar. Perruque, jupe, blouse, talons hauts, bas de nylon, lingerie, sacoche, maquillage, etc. Je me suis rasé le corps au complet et je me mettais de la crème quotidiennement. Ma peau était presque aussi douce que celle d'une femme. Je me suis donc donné un nouveau nom et j'ai choisi Tania. Je m'identifiais sous ce nom-là dans mes sorties. Dès ma première sortie en novembre 2001, ce fut la piqûre totale. Je suis allée dans des bars pour travestis et transsexuels et j'ai découvert tout un univers que j'ignorais complètement avant. La vie de party, le sexe, la drogue, l'alcool, danser comme une femme et m'amuser avec de nouvelles amies, qui étaient un peu comme moi et le plaisir de se faire draguer par les hommes, mais surtout quel sentiment de libération que je ressentais de vivre en femme en public. Enfin, on s'intéressait à moi que je me disais. Je m'étais fait une bonne amie, qui m'a beaucoup aidée à me féminiser et surtout à me maquiller convenablement. Puis, je sortais presque tous les week-ends en prétextant à ma femme que j'avais besoin de me changer les idées et que j'avais des nouveaux amis et qu'on jouait au billard, gentiment en prenant une bière. Quel mensonge! Elle ne semblait se douter de rien. Je me suis ensuite beaucoup améliorée côté look et je me suis acheté beaucoup de vêtements féminins. J'ai alors commencé à vivre dans la débauche totale avec les hommes, les femmes, même des couples. Il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. J'ai même fait de la prostitution à quelques reprises. Je ne voulais pas faire de prostitution et ça me dégoûtait au début, puis je me suis dit que tant qu'à le faire gratuitement et bien que ça pouvait se faire avec des dollars en prime. Je voyais tous ces mecs hétéros, qui étaient le genre de mecs machos, qui m'auraient humilié quand j'étais jeune, je les voyais venir me draguer avec insistance et même quand je leur disais que j'étais une travestie, pour la plupart, ils voulaient avoir une aventure pareille. Quelle revanche que j'avais sur les hommes que je me disais. J'ai fait tomber beaucoup d'hommes hétéros dans mon péché. Mes jambes qui faisaient tellement ma honte quand j'étais jeune étaient maintenant devenues mon atout principal. J'étais petite et délicate en femme et je passais vraiment bien. J'ai des traits fins et mon petit visage délicat me donnait une apparence que je n'aurais pu croire moi-même. Chose certaine, j'ai retrouvé l'estime de moi-même en Tania, si on exclut le péché que je faisais. Enfin, je me sentais valorisée et admirée. Je recevais beaucoup de compliments. Que ça faisait du bien et que ça flattait mon ego, moi qui avais été tant humiliée et rejetée. Même des femmes étaient jalouses de moi et de mes formes, et même une fois la bagarre entre deux femmes pour moi. Jamais j'aurais cru. Les mecs ne me laissaient pas tranquille une minute. J'adorais séduire les mecs et les voir baver après moi comme des petits chiens devant un os. J'étais valorisée et estimée, mais pour les mauvaises raisons. C'est mon corps qu'on aimait et on ne m'aimait pas pour la personne que je suis. Par contre, je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui je ne suis pas fière de tout le mal ce que j'ai fait et j'ai beaucoup de regrets de mes péchés. Je ne fais que vous raconter tout ce que j'ai vécu le plus honnêtement que possible et je ne veux surtout pas me glorifier de tout ça aujourd'hui. Le grand mensonge. Puis, plus le temps passait, plus je devenais accro de Tania et je pense bien que cela soit pire que l'héroïne. Je pouvais absolument plus m'en passer. Je comptais les jours et même les heures qu'il me restait avant d'enfin redevenir Tania. Quand je redevenais Bernard, je tombais en dépression et plus le temps passait, plus je ne pouvais plus supporter de redevenir Bernard. Puis un jour, j'en suis arrivée au point où je ne pouvais même plus être en homme, plus de 2 jours sans tomber en profonde dépression. Je me suis mis à penser que j'avais un gros problème et que peut-être que j'étais une pauvre femme emprisonnée dans le corps d'un homme et qu'il y avait eu une erreur génétique ou un problème hormonal grave ou une malformation quelconque lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Alors je me suis dit que ça expliquerait tout. Ça voudrait dire que je ne suis pas gay et que mes tendances féminines sont simplement le reflet de la femme intérieure que je suis. Donc je serai une femme hétérosexuelle, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que seul problème, j'ai un sexe masculin. Et ça, c'est un gros problème pour une femme. J'ai alors commencé à correspondre avec des transsexuelles soi-disant chrétiennes sur un site bien spécial et on se réconfortait et on s'encourageait dans notre cheminement. Beaucoup voulaient se rendre à l'opération de changement de sexe. On priait même les uns pour les autres et on se donnait des conseils. Je leur confessais mes péchés d'immoralité et elles priaient pour moi. Elles ne considéraient pas pour la plupart que c'était mal d'avoir un homme dans sa vie en autant qu'on est marié. Puis j'ai appris que la transsexualité était quelque chose d'incurable. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir selon tous les experts et les faits établis. Je n'avais donc pas beaucoup de choix devant moi, car je ne voulais plus être un homme. Un soir que j'étais désemparée parce que je réalisais que je n'étais plus capable de m'en sortir et que je n'étais plus capable d'être un homme, je me suis mis à pleurer en demandant à Dieu « Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ?» Et puis, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur en me disant avec beaucoup d'amour « Je ne te condamne pas à cause de ce que tu as l'air, je ne regarde pas à ton apparence, mais je regarde à ton cœur, et ensuite, ton estime de toi est très basse, il va falloir que tu te reconstruises avec mon aide, mais ensuite avec une profonde tristesse, il m'a dit « La seule chose que je te demande, c'est de ne pas te laisser aller dans le péché, et cela il me l'a répété à 3 reprises, comme s'il savait que j'allais faire encore beaucoup plus de mal. » Après cela, je n'ai plus entendu la voix du Seigneur pendant très longtemps. J'ai effectivement désobéi et je suis tombée profondément dans l'immoralité par la suite. Il m'arrivait parfois de parler au Seigneur et de chanter un chant chrétien, malgré la gravité de mon péché. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'étais totalement rétrograde dans ce qu'il y a de pire. Peut-être le vide que me laissait mon péché. Disons que le péché te laisse toujours un goût amer. Il y avait quelque chose de bizarre que je me rappelle. Il m'arrivait souvent de partir pour une grosse soirée de partie en Tania et alors que je me rendais en auto au bar, je me mettais à penser à mon petit garçon qui ne me voyait plus beaucoup car je ne passais plus beaucoup de temps avec lui à cause de ma vie de débauche. Puis alors que je conduisais, un grand sentiment de tristesse m'envahissait. Je me sentais coupable du mal que je faisais et je sentais la profonde tristesse du Saint-Esprit en moi. J'avais beaucoup de difficultés avec cette présence de Dieu, mon péché me faisait mal face au Seigneur. La révélation choc de Tania. Il me fallait donc maintenant avouer à ma femme que je me travestissais et je vous jure que ça n'a vraiment pas été facile ni pour moi, ni pour elle. Quand je lui ai avoué, je lui ai montré des photos de moi et elle m'a répondu qu'il ne me manquait pas grand-chose pour être une vraie femme. Puis elle a éclaté en sanglots, elle était vraiment en état de choc. Je suis partie en catastrophe. J'aurais espéré qu'elle m'accepte en femme, mais ça aurait fait d'elle une lesbienne. Je la comprenais, elle était chrétienne et avait de fortes valeurs morales. Je ne lui ai pas avoué que je la trompais dans une vie de débauche à ce moment-là. C'était trop difficile de lui dire ça. Je lui ai menti en disant que je faisais seulement me travestir et que je n'étais pas aux hommes et que je ne couchais pas avec personne. Je n'étais pas prêt à avouer cela à ce moment-là. Ensuite, elle a tout révélé à sa famille et même à la mienne. Elle a même montré mes photos au pasteur de l'église. J'étais vraiment angoissée et troublée que maintenant tout le monde allait savoir mon petit secret, que je gardais depuis si longtemps, depuis mon enfance. Mais, je me suis résignée, et ensuite je me suis affirmée et je me suis dit alors que tout le monde le sache. Je suis une femme en devenir et je m'assume. Beaucoup étaient scandalisés, mais je m'en foutais, même que plus ils étaient scandalisés, plus j'étais fière de moi, car pour moi, je m'affirmais enfin. Soudainement, tous les pasteurs voulaient me parler, alors que pas un seul ne s'était manifesté après ma tentative de suicide. Tout le monde voulait m'aider tout d'un coup. Comment se faisait-il? Se pouvait-il que le fait que je sois travesti les dérangeait à ce point, mais pas que je me suicide? Même un pasteur m'a appelé pour me dire qu'il regrettait de ne pas avoir fait quelque chose pour moi quand je suis allée le voir en pleurant et en le suppliant de m'aider, il y avait de cela quelques années. Je lui ai répondu que je n'avais plus besoin d'aucune aide, car maintenant j'étais libérée. Je n'en veux pas à aucun pasteur aujourd'hui, il ne savait peut-être pas comment m'aider et ne connaissait pas tous les faits. Le seul pasteur qui m'a aidée et m'a démontré un peu de compassion, m'a parlé avec amour, et m'a exhorté à changer de voie. Curieusement, j'avais senti l'amour de Dieu lors de cette rencontre. Ensuite, il a prié pour moi et m'a remis un compact disque de chansons chrétiennes, car il était aussi un musicien et un chanteur. Il m'a remis son CD, comme par résignation. Mais Dieu avait un plan dans cela pour le futur, si vous continuez à lire mon histoire plus loin. Par la suite, mon épouse a demandé le divorce, à moins que je rejette mon nouveau style de vie, selon les conseils du pasteur. On devait aussi vendre la maison et se partager tous les biens. J'arrivais pas à m'imaginer que j'en étais rendu là. Pour moi, abandonner Tania était totalement impensable, puisque c'est Tania qui m'avait permis de m'en sortir et de retrouver l'estime de moi-même. Ça devenait de plus en plus pire de toute façon, et je n'étais même plus capable d'être un homme. Je vais donc tout perdre ce pour quoi j'avais tellement travaillé fort toute ma vie? Toutes mes économies, ma toute première maison, que je venais d'acheter, mes biens, ma famille, surtout être séparée de mon petit garçon que j'aime tellement. Puis je me suis dit que c'était bien fini entre moi et Vanessa, et qu'il n'y avait plus rien entre nous de toute façon. À quoi bon faire durer la souffrance et que mon fils en paye la note encore plus? Ma maison était une cage dorée, rien de plus. Ça me faisait mal pareil, car pour moi le divorce est un échec et aussi mon fils devra vivre avec ça, lui qui était si jeune et déjà si fragile de tout ce qu'il avait vécu. Quand j'ai mis la pancarte pour vendre la maison et qu'il me demandait à quoi ça sert cette pancarte, je n'étais pas capable de lui dire franchement et ça m'a fait pleurer. Je me sentais coupable. Je suis un salaud, un sans-cœur que je me disais. Tout ça à cause de ma folie. Je ne pourrai jamais oublier une fois où j'étais allée chez la belle famille avec Vanessa, qui était encore mon épouse, et mon fils Brandon et on revenaient en auto tard le soir. Brandon dormait tendrement en arrière dans son siège. Vanessa avait mis un CD chrétien en espagnol. Dans une des chansons d'adoration qui est super belle, les paroles disaient « Renouvelle-moi Seigneur Jésus, je ne veux pas rester le même. Renouvelle-moi Seigneur Jésus, mets en moi ton cœur. Parce que tout ce qui est en moi a tellement besoin d'être changé Seigneur. Parce que tout ce qui est dans mon cœur a tellement besoin de plus de toi. Je suis juste pas capable de vous décrire tous les faits que ça m'a fait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis mis à avoir des larmes qui coulaient sur mes joues et je réalisais tout l'amour que Jésus avait pour moi, mais en même temps, je réalisais que tout cet amour, je le refusais, car je ne voulais pas abandonner mon péché et ça me faisait tellement mal de réaliser que j'étais rendu tellement endurci dans mon cœur que j'avais même perdu la capacité de me repentir à cause que j'aimais tellement mon péché. Le Seigneur m'avait parlé avec beaucoup d'amour et je lui avais dit non, va-t'en, je préfère mon péché. Cette expérience a été une des plus pénibles de ma vie. La transition et la féminisation. Puis j'ai commencé à suivre un traitement coûteux au laser pour me faire enlever tous les poils que j'avais dans le visage afin de me féminiser le plus possible. Pour en avoir le cœur net, je voulais savoir ce que j'avais d'anormal et je suis allée consulter toutes sortes de spécialistes dans le domaine de la transsexualité, dont des psychiatres, des psychologues, des endocrinologues, des docteurs, etc. J'ai passé plusieurs tests, dont certains très complexes, et le verdict c'était que ma situation était assez sérieuse et que j'étais très féminin et qu'on me conseillait de suivre une thérapie pour réorientation sexuelle, ce qui veut dire de d'abord vivre en femme à temps plein pendant un certain temps et ensuite le changement de sexe et de suivre une hormonothérapie, prendre des hormones féminines pour la féminisation de mon corps. Un des tests classés comme transsexuel probable de catégorie 4, l'un des plus communs chez les transsexuels, et aussi que ma situation était très sérieuse. Les endocrinologues m'ont mesuré partout et ils étaient surpris de ma taille un peu semblable à celle d'une femme. Ils pensaient que j'avais un surplus anormal d'estrogène hormone femelle. Mais les résultats finaux montraient des taux normaux d'estrogène. Ça pouvait être un problème génétique aussi, mais le test coûtait très cher et je ne pouvais pas me le permettre. Ça pouvait être au niveau du cerveau aussi. Toutes sortes de théories circulaient sur le sujet. La seule chose qui revenait, c'est incurable. J'étais donc une transsexuelle probable et c'est incurable. Quel choc d'apprendre ça. Par contre, de mon côté, je voulais prendre des hormones pour une féminisation de mon corps et surtout avoir de vrais seins. Mais je voulais aussi vivre à temps plein en femme, mais pas devant Vanessa et mon fils. J'ai alors commencé à me faire pousser les cheveux de plus en plus longs et à suivre la thérapie. C'était long avant d'avoir l'autorisation de suivre l'hormonothérapie. J'ai aussi suivi des cours de voix avec une orthophoniste pour perfectionner ma voix féminine, qui était devenue très bien à la fin de mes cours. Enfin, on ne me devinait plus à cause de ma voix. Puis quand j'ai commencé l'hormonothérapie, un changement incroyable s'est produit, j'ai commencé à avoir des vrais seins, et ça faisait spécial de sentir mes seins sur mon corps. Même mon visage a changé de forme. Je me sentais vraiment femme de plus en plus. Le seul problème avec les hormones, c'est que ce n'est pas facile psychologiquement. Je pouvais faire des crises pour rien et me mettre à pleurer sur n'importe quoi. D'autres fois, je devenais très chaleureuse et colleuse en tant que Tania, bien sûr. J'ai aussi entrepris de faire changer mon nom pour celui de Tania, un processus qui peut prendre un an et plus. Puis je voulais me faire mettre des implants mammaires pour avoir des plus gros et plus beaux seins, car avec les hormones je ne pouvais espérer avoir plus que du A, et aussi refaire mon nez et la pomme d'Adam ensuite. Je devais choisir entre les seins ou le nez, car je n'avais pas assez d'argent pour payer les deux en même temps. Ça coûtait $5,000 environ pour chaque opération. J'ai passé très près de me faire mettre les implants. J'avais même choisi la grosseur du C+. Dessin de rêve que je me disais. Avec ça, je vais faire des malheurs que je me disais. Mais il y a quelque chose qui me disait non, fais ton nez avant. Le nez que j'avais était trop masculin et je le détestais, donc j'ai décidé de me faire refaire en premier le nez en juin 2003 et de repousser les implants pour le printemps 2004. L'opération a été très pénible, mais ça m'a améliorée complètement. J'avais un nez très féminin maintenant et mon visage faisait très femme, surtout que je n'avais plus de poils dans le visage. On ne me devinait vraiment pas en tout cas. Puis avec ce look, j'avais atteint le sommet de ma gloire. On m'a offert à quelques reprises de faire des films porno et des magazines porno aussi. Mais j'ai refusé à cause que je pensais que c'était vraiment aller trop loin de faire ça. Après ça, tout le monde va me voir dans mon péché dans des films 30. Je me disais pareil qu'avec tout cet argent, je pourrais me payer mes implants, mais pas question. On m'a même offert de rencontrer des chefs dans le milieu criminalisé en me disant que si j'étais gentille avec eux, qu'ils me guetteraient et me donneraient beaucoup d'argent. J'ai refusé, mais j'ai eu très peur de me faire agresser cette nuit-là. Déjà que j'avais été victime de 3 tentatives d'agression sexuelle en pleine nuit par des maniaques, pervers de la pire espèce, sans compter tous les maniaques qui me suivaient. J'ai pu me défendre 2 fois, mais 1 fois on m'avait drogué avec du GHB, la drogue du viol, pour abuser de moi, mais une chance que mes amis étaient là pour me protéger. Mais surtout, le Seigneur m'a protégé malgré tout mon péché et ma désobéissance envers lui. Un ami spécial. Puis, lors d'une tournée dans un bar de transsexuels, je voulais me débarrasser d'un vieux vicieux qui me draguait en me payant des verres, et qui ne me laissait pas tranquille une minute. Je me suis levée et j'ai vu un bel homme qui semblait sympathique assis au bar. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Fais comme si tu me connaissais depuis longtemps, car je veux que ce vieux salaud me foute la paix. » Il a été très gentil avec moi et m'a payé des verres, puis on a beaucoup parlé et il était très intéressé à moi et moi aussi il me plaisait. Pour faire une histoire courte et ne pas entrer dans trop de détails, il est devenu mon « chum » à partir de ce soir-là. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux des chrétiens rétrogrades. Lui, il avait abandonné le Seigneur pour la drogue, l'alcool, les travestis et les transsexuels. Il était fortement dépendant de tout cela. Comment se faisait-il que je tombais sur lui par hasard dans un bar de transsexuels et qu'il soit un chrétien rétrograde comme moi en plus? Il y avait une raison et le Seigneur avait préparé un plan. Vous allez voir cela plus tard. Il est demeuré mon chum assez longtemps et je m'étais assagi, je ne fréquentais plus mes amis prostituées et en plus je ne couchais plus avec tous les mecs qui passaient. Je m'étais fait des amis travestis plus sérieuses dans leur démarche et qui avaient des professions plus respectables même, si leur vie était pas mal à l'envers. Ma nouvelle vie de femme libre. Ensuite, ce qui devait arriver arriva, ce fut le divorce et j'ai presque tout perdu ce que j'avais, et je devais payer une forte pension à mon ex-femme. J'ai trouvé très pénible de ne plus voir mon petit garçon, sauf une fois par semaine, et de me retrouver seule. J'avais de la peine pour lui à cause qu'il avait perdu le père, qu'il avait besoin et que j'avais déjà été. Je suis donc déménagée seule en appartement, à Montréal, et je me suis consolée en me disant que là, enfin je pouvais vivre en femme à temps plein et suivre ma thérapie pour réorientation sexuelle et faire ce qu'on appelle le test de 2 ans en femme real life test avant d'aller à l'opération pour un vagin, si je le désirais. Toujours? Mais je n'étais pas prête, encore pour cela et aussi j'aimais les femmes aussi. Je préférais plutôt être sèche mal à cette époque. C'est-à-dire, une femme avec des vrais seins, mais avec un sexe masculin. Je devenais de plus en plus féminin et à mon travail, ça commençait à apparaître pour les collègues. Je m'habillais avec des gilets féminins et des pantalons féminins, plus serrés. Je ne portais plus de perruque quand je sortais en Tania, car mes cheveux étaient devenus assez longs, pour que j'aie une belle coupe féminine, mais au travail je m'arrangeais plus androgyne. Donc, je portais des vêtements de plus en plus féminins et mon apparence avait beaucoup changé. En fait, j'avais vraiment l'impression que je me travestissais quand j'étais Bernard et que j'étais normale quand j'étais Tania. Donc pour moi, je devais me travestir en homme dans la présence de mon ex-femme et de mon fils. Je n'aimais pas ça, mais de toute façon j'avais tellement l'air d'une femme et cela même en me travestissant en homme, comme je me disais dans ce temps-là. Brandon m'appelait papa en public et les gens étaient toujours très surpris, car on me prenait toujours pour une femme. Je lui ai expliqué que papa allait devenir Tania et je lui ai donc demandé de m'appeler Tania en public pour ne pas trop scandaliser les gens. Je croyais bien faire en me disant qu'il serait mieux que Brandon comprenne ma situation le plus vite possible et puisse ainsi m'accepter plus facilement. Je regrette beaucoup aujourd'hui de l'avoir exposé à cet épisode de ma vie et j'espère de tout cœur qu'il n'en gardera aucune séquelle néfaste. En tout cas, je ne pouvais plus aller dans la salle de bain des hommes à cause de mon apparence très féminine. Il fallait que j'aille dans la salle de bain des femmes quand je sortais et si Brandon était avec moi et qu'il venait à la salle de bain avec moi, il ne fallait surtout pas qu'il m'appelle papa devant toutes les femmes qui s'y trouvaient. Ouah. Ma vie pouvait être parfois être très compliquée à cause de mon identité. La révélation au travail. Puis un jour que je devais aller chez ma coiffeuse pour me faire donner une nouvelle coiffure très féminine avec des mèches, je suis sortie pour aller me promener dans le centre d'HA et j'ai rencontré un collègue de travail. Il était très surpris et même en état de choc. Quel choc ce fut pour moi aussi. Je me disais, ils vont tout savoir maintenant. Puis, quelques jours plus tard, la machine à rumeurs avait bien décollé. Beaucoup de collègues de mon travail faisaient circuler la rumeur. Je travaillais dans une grande firme d'assurance et j'étais dans le secteur de l'informatique. Alors je n'ai pas eu le choix de tout raconter à mes patrons. Je suis rentrée dans le bureau de mon patron et je lui ai dit « C'est pas facile à te dire, mais voilà, je pense que tu t'en doutes. Je vais devenir une femme très bientôt et à partir de bientôt je vais venir travailler sous ma nouvelle identité et mon nom sera Tania et surtout, je suis fière de ce que je suis. » Je leur ai même avoué que j'étais bisexuelle. Ça a été le choc pour eux tous. Mais ils m'ont accepté et m'ont demandé d'attendre quelques semaines avant de me présenter sous Tania. Ils devaient tous s'adapter à cette situation et je travaillais avec beaucoup de monde. Ils ont même eu un meeting pour discuter de ma situation. Personne ne devait me manquer de respect, sous peine de réprimande. J'ai été bien protégée par la Charte des droits et libertés, disons. Quand ce fut le grand jour, je me rappellerai toujours, c'était le 19 mai 2003. Je suis arrivée comme une femme d'affaires avec jupe, top et veste et talons hauts, maquillée sobrement. J'étais très nerveuse, mais déterminée. Mes seins avaient aussi poussé un peu plus. J'avais un look à faire tourner les têtes, mais je demeurais classique, avec un petit côté sexy, mais pas trop provocante, pas vulgaire en tout cas. Les collègues étaient stupéfaits. Ma voix féminine était très bien aussi. Je parlais en Tania à temps plein maintenant et je vivais en Tania à temps plein. Beaucoup de gens sont venus me voir, surtout les femmes pour me dire que j'y étais très belle et beaucoup n'en revenaient pas de mon look. Je faisais du 36-27-36 avec un poids de 112 livres. Presque qu'une taille de mannequin. Les gens qui ne me connaissaient pas ne pouvaient pas me deviner. Les mecs me reluquaient un peu partout où j'allais. Par la suite, moi comme mes collègues se sont habitués à la situation et on ne me remarquait plus comme à la première journée. Tout le monde était respectueux en ma présence, mais pas tous me parlaient en tout cas. Il y en a beaucoup qui avaient peur de moi. Puis, ça devenait une routine, comme toutes les femmes ordinaires qui vont travailler, mais ça prenait plus de temps à s'arranger le matin. Surtout, je me sentais tellement bien d'être femme devant tout le monde et à temps plein. Plus besoin de me travestir en homme que je me disais. Je revenais du travail et j'allais faire l'épicerie. Souvent, un homme me demandait pour apporter mes sacs jusqu'à la voiture. On m'ouvrait les portes partout devant moi. J'aimais beaucoup faire du magasinage et acheter plein de vêtements de toutes sortes. Je m'étais monté une belle garde-robe et je pense bien que j'en avais pour plus de 3 000 $. J'avais tout ce que je désirais en vêtements. J'avais une vingtaine de paires de souliers à talons hauts et de bottes de toutes sortes de styles et couleurs. La désillusion. Je vivais à 100 000 $. L'alcool, la drogue, le sexe, les parties, le travail. Je passais aussi beaucoup de temps à chatter sur l'internet et à regarder de la pornographie. J'en avais toute une collection. Souvent, je ne dormais presque pas et j'abusais beaucoup de ma santé. Mais j'ai commencé à me rendre compte que malgré toute ma popularité et cette vie trépidante, je me sentais très seule. Je me rendais compte que les vrais amis, il n'y en avait pratiquement pas et que ceux que j'avais n'étaient là que pour faire la fête. Mais à part ça, pas vraiment de véritables amis sincères, à part une seule qui était plus à l'écoute que les autres. Je n'avais presque personne à qui je pouvais me confier sur ma vie à part cette seule amie. Je me rendais compte de la jalousie que certaines travesties ou transsexuelles avaient pour moi. Je trouvais que beaucoup étaient tellement superficiels. Il y avait aussi tellement de médisances, de chicanes et de jalousie entre beaucoup d'entre elles et certaines avaient un problème de comportement assez important. C'était un milieu très dysfonctionnel. De plus, même si mon chum était gentil, il ne m'aimait que pour mon corps, mais pas pour qui j'étais, vraiment en tant que personne. Plus je me rendais compte de ça, plus je devenais malheureuse. Je n'étais qu'une image, une idole, mais quand je rentrais chez moi, personne ne savait la solitude que je vivais en moi. Je me disais, il faut que ça change, j'en ai marre de tout ce cirque. Tout ce que je veux, ce sont des amis sincères qui ont une vie équilibrée et avec qui on peut partager les belles choses de la vie. Je passais beaucoup de temps seule, car pas beaucoup de mes copines travesties vivaient à temps plein comme moi. Elles vivaient plus cela dans la clandestinité, le week-end, la nuit, et puis ensuite, elles y redevenaient des mecs le jour. La plupart de celles qui étaient travesties ou transsexuelles à temps plein étaient dans la prostitution, et je ne voulais plus y redescendre à ce niveau-là. Puis une autre chose bizarre arriva, moi qui depuis 2 ans aimais tellement aller dans les bars pour m'éclater le week-end, eh bien j'ai commencé à me sentir stressée d'y aller et à me sentir mal à l'aise dans cette faune de nuit. Il me semblait que j'aurais tellement aimé mieux rester tranquille, à la maison à écouter un petit film avec une copine. Je ne sais pas, je conduisais mon auto pour me rendre au bar, et je me disais encore une autre soirée perdue à m'ennuyer avec tous ces gens tellement superficiels. Je devenais souvent triste, déprimée et malheureuse en dedans. Le monde des bars, j'étais plus capable. J'avais besoin de parler avec des gens qui avaient quelque chose en dedans, qui avaient une oreille attentive et un cœur pour compatir. J'avais besoin d'entendre des choses plus profondes que toutes ces superficialités, du genre qui a baisé avec qui et regarde mon nouveau rouge à lèvres. Et puis un soir, alors que j'étais assis au bar dans un club de drag queen, je regardais tous ces mecs homosexuels qui s'embrassaient et ça m'a dégoûté de les voir. Puis je voyais des lesbiennes qui faisaient de même et toute cette faune de travestis et j'avais carrément l'impression que j'étais en enfer assis sur une roche sur le bord du lac de feu de l'Apocalypse. Tranquillement, je sentais la conviction du Saint-Esprit sur moi. « Qu'est-ce que tu fais ici dans ce lieu de perdition ?» J'étais restée seule au bar ce soir-là, à réfléchir à ma vie, alors que le bar allait fermer, je me disais en moi-même « il faut que je fasse quelque chose de mieux avec ma foutue vie ». Les bars, j'en ai ma claque, je suis juste plus capable. Dieu par les demandes de choisir. Et puis voici ce qui m'arriva de vraiment incroyable par la suite. À la fin d'août 2003, lors d'un week-end où je devais passer du temps avec mon fils Brandon, que je ne voyais plus beaucoup. Il était venu chez moi pour me rendre visite. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je m'étais tellement ennuyée de lui. Donc, on a passé du bon temps ensemble et je suis allée me promener avec lui ce samedi-là pendant la journée et on avait bien profité de cette journée. Ensuite, mon chum devait venir me rejoindre chez moi pour venir souper avec nous. Je ne permettais pas à mon chum de me coller ou de m'embrasser devant mon fils. Je tenais à ne surtout pas traumatiser mon fils par amour et respect pour lui et je faisais bien. Je disais simplement à mon fils que mon chum était un ami. Après le souper, je devais reconduire mon fils chez mon ex-femme Vanessa. En temps normal, j'étais supposée passer au moins la soirée avec mon fils, mais je préférais plutôt recevoir mon chum ce soir-là, car on avait prévu une soirée intime de sexe, drogue et alcool. Je suis donc allée reconduire mon fils Brandon chez Vanessa, et mon chum est demeuré chez moi à m'attendre. Quand je suis arrivée chez Vanessa, j'ai tout de suite dit au revoir à Brandon, et alors que je m'apprêtais à partir, Brandon m'a manifesté sa grande tristesse de me voir partir si vite. Alors il se mit à me supplier de rester et de jouer avec lui. Mais je lui ai répondu, « Non, papa doit partir parce que mon ami m'attend chez moi. » Il m'a alors regardé et m'a supplié encore une autre fois, et là j'ai senti le cri de son cœur, pour moi en regardant sa profonde tristesse dans ses beaux yeux bruns. Je lui ai encore répondu que je devais absolument partir et je suis sortie attristée en me sentant coupable de l'avoir délaissé. Et là, soudainement, alors que je descendais les marches, j'ai reçu une profonde parole du Saint-Esprit, « Ton péché est plus important que ton petit garçon. » Je me suis mise à me sentir très attristée et coupable d'avoir abandonné mon fils pour ma soirée de débauche avec mon chum. Jamais je n'aurais pensé que ça se passerait comme ça. Ensuite, en conduisant mon auto, pour revenir chez moi, un trajet de 20 minutes environ, la parole revenait sans cesse, « Ton péché est plus important que ton petit garçon. » Ton péché est plus important que ton petit garçon. Ton péché est plus important que ton petit garçon. Ton péché est plus important que ton petit garçon. Ton péché est plus important que ton petit garçon. Ton péché est plus important que ton petit garçon. Ton péché est plus important que ton petit garçon. Sans cesse, cette parole revenait me tourmenter. De ma joie intense de passer la soirée avec mon chum, je suis tombée dans une grande tristesse et je réalisais le mal que je faisais. Je suis donc arrivée chez moi très triste et abattue et tout de suite mon chum voulait me coller et me toucher, mais j'étais tellement mal en dedans de moi que je l'ai repoussé tout de suite. Je lui ai raconté ce qui était arrivé avec mon fils, mais je ne voulais pas lui dire la parole que j'avais reçue du Saint-Esprit. Il m'a consolée, puis il m'a offert une bière pour me calmer. Par la suite, j'ai noyé ma tristesse dans l'alcool, la cocaïne et le sexe, et cela toute la soirée, et toute la nuit jusqu'au matin presque. Puis nous nous sommes couchés, mais quand je me suis réveillée vers midi ce dimanche-là, je me suis mise de nouveau à penser à Brandon et à la parole que j'avais reçue, et là je me suis sentie vraiment sale, moche et vide en pensant à mon fils que j'avais préféré abandonner pour faire toutes mes saloperies avec mon chum. Je me sentais tellement indigne et coupable. C'est alors que pour soulager ma conscience, j'ai mis le CD chrétien que le pasteur de mon église m'avait remis il y avait longtemps. Vous vous souvenez, je me suis mise à chanter une des chansons que j'aimais beaucoup avec mon micro. La chanson s'intitulait « Éternel mon Dieu ». J'ai alors commencé à chanter les paroles « Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours, éternel en toi je me réfugie, éternel mon Dieu tu es mon roi, éternel en toi j'abandonne ma vie ». Puis mon chum m'écoutait et soudainement il m'a interrompu et m'a demandé d'arrêter de chanter ma chanson. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, ce n'est pas que tu chantes mal, mais tu ne peux faire ce que tu fais avec moi et ensuite chanter des cantiques à Dieu. Je lui ai répondu, c'est vrai, tu as raison, et tristement j'ai ensuite arrêté ma chanson. Mais là quelque chose de vraiment surnaturel allait prendre place. Le Saint-Esprit me parla directement à travers lui. J'ai reçu une autre parole venant de la bouche de mon chum chrétien rétrograde. Il me dit, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas être tiède, soit chaud ou froid, car si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puis il me la redit une seconde fois, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas être tiède, soit chaud ou froid, car si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. L'effet que ça m'a fait est indescriptible avec des mots humains. J'étais totalement démolie, anéantie, écrasée, en mille miettes dans toute la profondeur de mon âme. J'ai senti toute la colère de Dieu sur moi et que j'avais atteint la limite de sa grâce. J'ai clairement compris que je devais faire un choix entre mon péché d'immoralité ou Dieu, mais pas les deux en même temps. Je me suis sentie tellement désemparée et troublée que j'ai sauté dans les bras de mon chum pour retomber dans mon péché tellement le vide était profond en moi. La véritable repentance. Par la suite, j'ai passé 2 jours dans un état de dépression profonde. Il y avait un combat intense en moi-même dans mon âme. Je devais choisir entre Dieu ou mon péché. Mon problème, c'est que j'aimais les deux. J'étais tellement attachée à mon péché, et surtout à l'homosexualité, mais je ne voulais pas perdre le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut faire un choix. Puis après ces 2 jours de combat, je me suis effondrée en larmes devant le Seigneur en me repentant, et je lui ai dit exactement ceci, « Seigneur, je ne peux pas ne pas te choisir, c'est toi que je choisis Seigneur, mais je t'en supplie donne-moi la force d'abandonner mon péché. » Aussitôt que j'ai dit cela, j'ai senti une paix extrêmement profonde m'envahir, une paix qui ne vient pas de cette planète, et aussi un amour d'une intensité incroyable en moi. Je me suis sentie vraiment libérée. Puis j'ai pleuré longuement en parlant au Seigneur et en me repentant de toutes mes immoralités commises depuis ces 2 dernières années. J'ai vraiment senti le véritable pardon de Dieu. Une vraie délivrance authentique. Tout de suite, j'ai recommencé quotidiennement à lire ma Bible et à prier en demandant au Seigneur de me soutenir dans mon cheminement et surtout de me délivrer de mes désirs d'homosexualité. J'ai ensuite appelé mon chum pour lui dire que c'était fini entre nous et que j'avais choisi le Seigneur et pas mon péché. Ce fut donc le véritable début de ma délivrance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, malgré ma grande infidélité. Je n'en revenais tout simplement pas de comment le Seigneur avait suscité toutes ces circonstances pour m'amener à cette grande repentance. Ma solitude, ma désillusion, ma tristesse, mon fils qui avait tant besoin de moi, le CD du pasteur remis 1 an et demi auparavant, mon chum chrétien rétrograde rencontré par un drôle de hasard dans un bar de travestis et transsexuel qui devait devenir celui qui me dirait la seule parole capable de me démolir totalement. Non, mais réfléchissez à tout cela, c'est incroyable. Le Seigneur me surprend vraiment. Le cheminement vers l'obéissance. Toutefois, le Seigneur n'avait pas encore commencé à me parler au sujet de ma transsexualité? Je me suis donc dit que j'étais correcte avec ça. J'ai donc dit au Seigneur que j'allais être une femme pure, selon le Proverbe 31. J'ai donc résolu dans mon cœur de demeurer une femme intègre, soumise à Dieu. Puis un jour, j'ai même dit au Seigneur, « Ne me demande jamais de m'abaisser et de m'humilier à redevenir un homme. » Pour moi, de devenir un homme, c'était comme me demander de devenir une grenouille ou un chien. Puis, je suis retournée à l'église, après pratiquement 2 ans d'absence. Ça me faisait drôle de me retrouver en femme dans cette immense assemblée, qui compte plus de 2500 personnes. Je devais m'habituer à chanter comme une vraie femme le plus parfaitement possible, pour ne pas me faire deviner, et je devais parler avec les femmes qui m'adressaient la parole dans la salle de bain et ailleurs. Je me débrouillais très bien et personne ne m'avait deviné. Incroyablement, quand je suis retournée à l'église pour cette première fois, c'était David Wilkerson qui prêchait. Il était pasteur invité ce matin-là. Bizarrement, je savais intérieurement que je devais rencontrer cet homme avant même de le rencontrer. Ce n'était pas un hasard, mais un rendez-vous divin. C'était le 7 septembre 2003 et aussi le 10e anniversaire de cette grande église ce jour-là. Son message s'intitulait « Un cri sans voix, un cri qui vient des profondeurs de l'âme, mais qu'on ne parvient pas à exprimer aux autres. » Ce message était tellement pour moi. Je peux juste vous dire que j'ai été ébranlée profondément et que quand ce fut l'appel pour ce RE consacré au Seigneur, j'ai été l'une des premières à m'avancer en avant. David Wilkerson m'a alors dit « Do you believe in miracle ? Crois-tu au miracle ?» J'ai répondu « YES ». Oui, et ensuite il m'a dit en me serrant la main, « God will do a great miracle in your life. Dieu va faire un grand miracle dans ta vie. » J'ai senti une grande paix, puis il a prié un peu pour moi. J'ai quitté l'église en me demandant quel va être ce grand miracle que Dieu va faire dans ma vie. J'ai donc continué à fréquenter l'église régulièrement. Je lisais et priais fidèlement aussi, mais je me sentais tentée énormément. Je voulais vraiment obéir au Seigneur, mais il y avait quelque chose en moi qui voulait me ramener vers l'homosexualité. J'ai malheureusement eu quelques rechutes que j'avais tellement regrettées par la suite, car lors de ma RE consécration, j'avais dit au Seigneur que c'est lui que je choisissais et pas mon péché. Il fallait absolument que je sois fidèle au Seigneur. Les tentations étaient intenses, je connaissais plein de mecs et d'endroits, j'avais des numéros de téléphone, je chattais beaucoup avec des mecs sur l'internet et beaucoup voulaient me rencontrer. Il me fallait couper avec tout ça, moi qui pouvais difficilement passer une nuit sans un mec dans mon lit. Comment j'allais faire? Je voulais vraiment m'en sortir, mais je n'arrivais pas toujours à marcher complètement dans la victoire. Le Seigneur me parle. Puis lors des prochaines semaines, quelque chose de vraiment spécial a commencé à prendre place dans ma vie. Le Seigneur a commencé à me parler dans mon cœur. J'entendais une petite voix intérieure qui me parlait beaucoup. Je trouvais ça bien spécial et je me suis mise à parler avec cette voix intérieure comme dans une véritable conversation. La première expérience marquante est arrivée alors que je me rendais en auto à mon travail et que je me suis arrêtée à un feu rouge et que regardant à côté de moi, il y avait plusieurs très belles femmes qui attendaient l'autobus. Je les ai regardées et la petite voix s'est fait entendre « Elles sont belles les femmes que j'ai créées, non ?» J'ai répondu « Oui Seigneur, pourquoi tu me demandes ça ?» Et la voix de me répondre « Tu ne pourras jamais égaler ma création, tu es condamné à être une pâle copie de ma création. » Wesh. Je n'en revenais pas de cette parole, et alors que je réfléchissais, la lumière tombe au rouge, et je dois arrêter ma voiture encore. Je regarde à côté de moi et encore il y a plusieurs très belles femmes qui attendent l'autobus. Je n'en reviens pas, je ne les avais jamais vues auparavant. Puis une autre fois, la voix se fait entendre « Tu fais partie d'une des leurs maintenant, non ? Donc maintenant pour toi ce sont les hommes, non ? Puisque tu es une femme ?» Cela m'a fait énormément réfléchir puisque j'aimais beaucoup les femmes aussi et j'étais attirée par elles aussi. Et je ne me voyais pas partager ma vie entière avec un mec. Mais ce que le Seigneur me montrait, c'est toute la futilité de ce que j'étais. Qui va vouloir faire sa vie avec moi, une femme? Non, puisque tu es une femme toi-même, non. Alors c'est un homme pour toi, mais va falloir que tu te fasses enlever ton sexe pour avoir un vagin, sans ça tu n'es pas une vraie femme. Quel homme va vouloir faire sa vie avec toi et quelle femme va vouloir faire sa vie avec toi? En plus il n'y aura rien de vrai en moi, je ne serai qu'une pauvre image de ce qu'est une vraie femme. Jamais je serai une femme, mais juste une pâle copie ridicule. Ça m'avait secoué beaucoup, mais pas encore assez. Puis une autre fois la voix me dit, la femme est le cadeau que j'ai donné à l'homme. Pourquoi veux-tu devenir le cadeau et ne veux-tu pas plutôt prendre le cadeau et l'accepter et l'apprécier pour ce qu'il est? Ça m'a fait réfléchir, beaucoup réfléchir. Et ensuite une autre fois, pense à ton petit garçon Brandon, tu es son modèle masculin le plus important, ce n'est pas négligeable cela. Ensuite, une autre fois la voix me répondit concernant quelque chose que j'avais dit auparavant quand j'avais dit « Ne me demande jamais de m'abaisser et de m'humilier à redevenir un homme. » La voix m'a répondu « Moi je suis Dieu et j'ai quitté toute ma gloire pour m'abaisser et m'humilier pour devenir un homme et cela pour tes péchés et toi alors ?» Cette parole m'a beaucoup ébranlé et surtout beaucoup fait réfléchir. Dieu, lui qui est Dieu dans toute sa gloire, s'est abaissé, il s'est humilié en devenant un homme et pour mon péché, alors pour moi de m'abaisser à devenir un homme ce n'est pas aussi pire que cela était pour lui qui est le Dieu gloire. La grande révélation. Puis, quelque chose de très spécial se préparait sans que je le sache. J'étais allée à un cours intitulé « Le vase restauré » un jeudi soir à mon église. Puis le soir, après le cours, j'ai sorti et je suis allée manger à un petit restaurant. J'étais seule, tranquille et en paix. Mais je ressentais quelque chose de drôle, comme une présence bienveillante sur moi, comme une présence de Dieu, qui me regardait avec bonté, qui comme semblait me dire « Je prends soin de toi ». Puis, je me suis couchée ce soir-là, avec une grande paix dans mon cœur. Le lendemain matin, le 10 octobre 2003, je me suis levée et je me suis fait un café, puis je me suis assise à la table de ma salle à dîner. Il était environ 10 heures le matin. Puis soudainement, sans que je comprenne pourquoi, j'étais totalement incapable de faire quoi que ce soit. On aurait dit que le temps avait arrêté. J'avais l'impression que c'était comme le néant, le vide absolu. Comme si j'avais perdu la volonté de faire. Que se passait-il ? Tout de suite, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passait et la réponse fut immédiate, « Habille-toi et va-t'en dans le parc près de chez toi ?» J'étais très vraiment surprise et curieusement j'étais capable de faire cette seule chose, c'est-à-dire de m'habiller et de me rendre dans ce parc. Le récit suivant est une expérience absolument surnaturelle. Alors que je marchais en direction du parc, la voix du Seigneur se fit entendre doucement à mon cœur. Cette voix était inaudible, elle était dite directement à mon cœur par le Saint-Esprit, et je la répétais à haute voix. Cette voix n'était pas ma voix, mais vraiment une voix qui n'était pas la mienne. Donc, cette voix se fit entendre doucement, « Il va falloir que tu fasses ton deuil de Tania. » J'ai répondu, « Non, Seigneur, ce ne peut être toi qui me parle. » Et de nouveau, mais beaucoup plus fort la voix se fit entendre, « Il va falloir que tu fasses ton deuil de Tania. » Tout de suite, je me mis à contester en pleurant et à dire au Seigneur, « Pourquoi me demandes-tu cela ? Pourquoi Seigneur, regarde tous les sacrifices que j'ai faits pour être ce que je suis, je vis en Tania à temps plein, et même à mon travail. » Puis, la parole se fit entendre, « Tu dois mourir à toi-même. » J'ai alors dit au Seigneur, « Il n'y a rien de précis qui s'oppose à ce que je suis, selon ta parole la Bible. » Puis, la parole se fit entendre de nouveau, « Ce n'est pas ma volonté que tu sois Tania, mais ma volonté c'est que tu redeviennes un homme, mais pas l'homme que tu étais, mais un homme totalement transformé par ma présence continuelle dans ta vie. » Je me suis mise à pleurer intensément en disant au Seigneur, « Si c'est ta volonté, eh bien je vais le faire, mais je ne me sens pas capable de le faire. » De nouveau la voix dit, « Ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. » Je me mis à pleurer de plus en plus fort et à sentir une présence du Seigneur indescriptible sur moi. Je sentais un amour de Dieu tellement intense sur moi. J'avais le visage totalement mouillé de mes larmes et je n'en finissais plus de pleurer. Je réalisais que j'étais vraiment dans la présence du Seigneur, mais sans pouvoir le voir. Puis, j'ai demandé au Seigneur, « Mais pour quelle raison tu veux faire cela avec moi ?» Et la voix de me répondre, « Des centaines de personnes vont se consacrer à moi. » Il parlait des inconvertis et se reconsacrer à moi. Il parlait des chrétiens rétrogrades grâce à l'œuvre que je vais faire à travers toi. Puis sachant que j'étais dans la présence du Seigneur, je voulais savoir quelque chose et je lui ai dit « Pourquoi alors, je suis comme ça ?» La voix du Seigneur de me répondre « C'est à cause de toutes les blessures et les traumatismes que tu as subis depuis ton enfance. » J'ai prié longuement le Seigneur en le louant intensément avec des larmes de joie. Tout cela s'est écoulé en un peu plus de 2 heures. Suite à cela, je suis retournée chez moi et j'étais tellement épuisée, pareil comme si je n'avais jamais dormi de la nuit. Je me suis couchée et j'ai dormi toute la journée jusqu'à 5 ou 6 heures de l'après-midi. Quand je me suis réveillée, je pensais que j'avais rêvé tellement ça me semblait irréel, mais nul doute, toute la révélation était authentique. Je me suis tout rappelée dans les moindres détails. Suite à cette révélation extraordinaire, toute ma vie allait changer de A à Z. J'ai donc commencé ce qu'on appelle un processus de détransition de femme à un homme. Croyez-moi, ce fut l'une des choses les plus difficiles de mon existence et sans l'aide du Seigneur je n'y serais jamais arrivée. Je devais absolument laisser le Seigneur reconstruire toute mon identité. Il fallait que ça se fasse très doucement en m'achetant des vêtements masculins dans lesquels je me sentais bien. Ça me prenait quelque chose qui avait du style. Il fallait me faire un nouveau look, un peu androgyne pour commencer et ensuite de plus en plus masculin. Il fallait donc me rabâtir une nouvelle garde-robe masculine. Je devais essayer le linge masculin autant que je pouvais, mais je devais demeurer en femme à mon travail tant que je n'étais pas prête à vivre en homme à temps plein. Il fallait absolument que je sois fonctionnelle en homme avant d'annoncer à tout le monde que je redeviens un homme. Ça faisait vraiment drôle de vivre en femme au boulot et en homme en cachette chez moi, lol. Alors que ça avait été le contraire pendant tellement longtemps avant. Il a fallu que je suive tout ce que le Saint-Esprit me montrait. J'ai aussi arrêté les hormones féminines. Je devais retrouver un physique beaucoup plus masculin, mais ce n'était pas facile du tout, surtout à cause que j'avais arrêté ma transition en plein milieu. Mon visage est assez féminin à cause que je n'ai pas de poils et à cause de l'opération de mon nez et ça je ne peux pas le changer. Une chance que je ne me suis pas fait mettre les implants. Dire que j'avais passé très près de le faire. Il y avait vraiment beaucoup de choses à changer. J'avais vraiment beaucoup de blessures intérieures à guérir en même temps. Parfois, je faisais des crises de colère incroyables et j'avais beaucoup de ressentiments envers tous ceux qui m'avaient blessé. J'avais beaucoup de choses à pardonner. J'ai appris à laisser aller et à remettre mes blessures au Seigneur. Le refus de pardonner, c'est aussi quelque chose que l'on retient dans son cœur et qui nous ronge intérieurement. Quand on refuse de pardonner, c'est à soi-même qu'on fait le plus de mal. Le pardon est vraiment une puissance qui libère. Plus je pardonnais, plus le poids s'enlevait de sur moi et plus je me sentais libre. J'ai pleinement pardonné à mon père et à mon ex-femme. Je devais beaucoup prier pour recevoir les réponses et surtout le soutien au fur et à mesure. La victoire sur les ténèbres. C'est alors que la percée les plus importantes allait arriver du côté spirituel. Un matin que je me suis couchée après avoir terminé mon quart de nuit à mon travail, je me mis encore à refaire ce genre de rêve bizarre où je suis agressée sexuellement par des hommes. Cette fois-ci c'était plus clair, car je les voyais plus clairement et je voyais bien qu'ils me désiraient sexuellement et qu'ils m'incitaient à participer avec eux à leurs attouchements. Je ne voulais pas et je refusais et je résistais en me réveillant angoissée. J'avais bien remarqué leur aspect bizarre pour la première fois. Ils étaient 3 êtres semblables comme bleu foncé et ils avaient des oreilles légèrement pointues et ils n'avaient pas de cheveux et le visage de forme triangulaire. Ils étaient laids, un peu semblables à des vieux malicieux et pervers. Je croyais toujours que ce n'était qu'un rêve et je me disais que ça ne reviendrait plus. Quelle ne fut pas ma surprise de faire exactement le même rêve le lendemain matin, et cette fois-ci de les voir encore une fois exactement les trois mêmes personnages. Encore une fois, ils essayaient de me faire des attouchements et de m'inciter à les toucher. Cette fois, je les vis encore plus clairement et soudainement, j'ai réalisé qu'ils étaient des démons et plus précisément des esprits impurs homosexuels. Et surtout, j'ai réalisé que je ne rêvais pas, mais que j'étais bien devenu conscient de leur monde invisible. C'est alors que j'ai ressenti une colère intense de les voir essayer de m'abuser et je leur criais de toutes mes forces « Vous n'avez pas le droit de me toucher, parce que j'appartiens à Jésus-Christ ». Quelle ne fut pas encore plus ma surprise de voir leur visage crispé de peur, exactement quand j'ai dit le mot « Jésus-Christ ». Tous les trois en même temps, leur visage grimaçait pareil, comme si je leur avais fait boire un litre de vinaigre. Je ne pourrai jamais oublier ça de ma vie. C'est alors que de toutes mes forces, je pris autorité sur eux au nom de Jésus-Christ. Je leur criai encore, « Éloignez-vous de moi par l'autorité de Jésus-Christ ». Et ensuite j'ai invoqué l'aide du Seigneur de toutes mes forces, avec une foi totale en disant, « Seigneur, ouvre les écluses des cieux, envoie-moi tous les anges que tu peux et viens voir qui est ici ». Je me mis à les insulter et à leur crier après en prenant autorité sur eux par le nom de Jésus. J'ai alors sorti de mon sommeil et aussi de mon lit et j'ai continué à crier et à prendre autorité sur eux en parcourant tout mon appartement. Je pouvais sentir la victoire comme jamais. Une victoire incroyable. Je suis convaincue qu'il y avait un carnage dans le monde spirituel et que cette forteresse qui minait ma vie et me rendait captive depuis si longtemps avait été totalement détruite. Alléluia. Savez-vous quoi? Devinez. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai plus jamais refait ces rêves bizarres, mais surtout que j'ai finalement commencé à vraiment marcher dans la victoire concernant mes désirs homosexuels. Je n'avais plus cette obsession pour les hommes. J'étais enfin capable de dire non à mes désirs. Il y avait encore des tentations, bien sûr, mais je n'étais plus dominée par ces mauvais désirs. Je n'étais plus captive dans ce mal qui me rongeait depuis ma conversion en 1983, et surtout, j'avais finalement compris qu'est-ce qui en était la cause. Je me fortifiais donc de plus en plus dans le Seigneur et enfin, je me suis mise à vraiment grandir spirituellement. La chose la plus importante était de marcher dans l'obéissance à chaque jour. La prière fervente, la lecture de la Bible, l'adoration par la musique et les chants, le jeûne et me fortifier en allant à l'église aussi souvent que je pouvais. Il fallait aussi me débarrasser absolument de tout ce qui pouvait être une porte d'accès au diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous avons la victoire sur le mal. La mort de Tania. Puis enfin, le 6 janvier 2004, le jour de mes 40 ans, je me présente à mon travail, au service des ressources humaines pour leur faire part que je vais redevenir un homme. J'en profite pour témoigner du miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. La madame responsable de mon dossier était vraiment touchée par mon histoire et elle se forçait à retenir ses larmes devant moi. Imaginez le choc pour tous mes collègues. J'étais un homme et tout d'un coup je suis devenue une femme et puis finalement j'annonce que je vais redevenir un homme. Ils ont dû se dire que ça ne tournait pas rond dans ma tête, lol. Croyez-moi, cela a été la chose la plus difficile pour mon orgueil que de leur annoncer que je redevenais un homme. J'ai été très humiliée avec cela et je me sentais mal devant mes collègues et tout le scandale que j'avais causé. Toutefois, je le faisais par obéissance au Seigneur et c'est cela qui compte. Le 14 janvier 2004 fut ma dernière journée complète en Tania. Je vous jure que c'était comme un véritable deuil. J'avais l'impression que j'étais condamnée à mort et que j'allais mourir ce soir-là. Je suis allée travailler cette journée-là et tout le monde allait me voir en tant que Tania pour la dernière fois. Je m'étais mise plus belle que d'habitude. J'ai beaucoup réfléchi cette journée-là et je me demandais ce qui m'attendrait. J'avais l'impression que je mourrais pour la deuxième fois. Bernard était mort et la Tania devait mourir à son tour et enfin un nouveau Bernard totalement consacré au Seigneur allait renaître. Wow. assez compliqué comme vie, non? Mais je devais faire confiance à Dieu et surtout lui demander qu'il me donne la force de passer au travers de cette épreuve. Puis le soir, j'étais bien triste et je me sentais comme dans un grand vide. Je n'arrivais pas à croire que bientôt c'était vraiment fini avec Tania. Je me suis mise à essayer tout mon linge que j'avais et à me regarder pour la dernière fois dans le miroir. Et puis en pleurant profondément, je me suis mise à enlever tout mon linge de Tania pour la dernière fois. En le faisant, j'ai dit au Seigneur ceci, « Seigneur, donne-moi d'être aussi fière d'être un homme que je l'ai été d'être une femme. » Puis, une fois que j'avais tout enlevé, j'ai regardé la date et l'heure. On était le 15 janvier 2004 et il était 3:30 du matin. Tania était donc officiellement morte. J'ai alors senti une grande paix et reçu une parole du Seigneur, « Je suis fière de toi ?» Je suis donc allée me coucher dans une grande paix et j'ai dormi comme jamais cette nuit-là. Dieu est fidèle. Le lendemain matin, je me suis levée en réalisant que j'étais vraiment redevenue un nouveau Bernard. C'était vraiment spécial et miraculeux car je me sentais réellement délivrée et dans une grande paix. Je ne sentais pas d'angoisse et de sentiments de dépression comme j'aurais senti auparavant. Rappelez-vous que je ne pouvais même pas faire 2 jours en homme, tellement je me sentais mal dans ma peau. Je devais toutefois aller me faire couper les cheveux cette journée-là, car j'avais encore mes cheveux de Tania. Cela était très difficile, car j'avais de très beaux cheveux et j'étais tellement fière de mes cheveux. C'était pour moi un gros sacrifice de le faire. Mais je devais le faire par obéissance envers le Seigneur. Alors que je me rendais en auto chez ma coiffeuse à Saint-Eustache, je me mis à me rappeler l'un des événements les plus tristes de ma vie. Je me rappelais que sur cette même autoroute 15, 2 ans auparavant, je me trouvais en auto avec Vanessa, mon ex-femme, et que j'écoutais un CD chrétien en espagnol qui m'avait tellement bouleversée, car je réalisais que je m'étais tellement endurcie par mon péché que j'en avais même perdu la capacité de me repentir. Les paroles de la chanson disaient « Renouvelle-moi Seigneur Jésus, je ne veux pas rester le même. Renouvelle-moi Seigneur Jésus, mets en moi ton cœur. Parce que tout ce qui est en moi a tellement besoin d'être changé Seigneur. Parce que tout ce qui est dans mon cœur a tellement besoin de plus de toi. » J'ai alors dit au Seigneur « Pourquoi Seigneur, est-ce que tu me fais rappeler ce moment qui a été l'un des pires de ma vie ?» Le Saint-Esprit m'a répondu avec une grande intensité et une grande autorité en me disant « Aujourd'hui, je te renouvelle. Aujourd'hui, je te renouvelle. Aujourd'hui, je te renouvelle. » J'ai été tellement touchée par le Seigneur que je me suis mis à pleurer de joie intensément et je me suis mis à glorifier le Seigneur de tout mon cœur en le louant à haute voix pour sa grande fidélité et sa grande bonté envers moi. « Quel Dieu fidèle tu es, Seigneur ! Comme ta bonté a été grande pour moi !» Comment tu as eu compassion de moi et surtout comment tu m'as délivré de l'abîme sans fond dans lequel je m'étais enfoncé. C'est un vrai miracle que tu as fait pour moi. Je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je voudrais juste dire que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra jamais qu'une de ses brebis se perde pour l'éternité. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'on puisse perdre son salut. Bien sûr, le Seigneur utilise la discipline et parfois le châtiment pour nous ramener à l'ordre, et même la mort si l'on persévère dans la désobéissance. Mais cela ne veut pas dire qu'on puisse perdre notre âme. L'amour de notre grand berger est plus grand que tout pour nous ses brebis. Comme un père bienveillant pour ses enfants, Dieu fera tout pour nous ramener dans le droit chemin. Même si un enfant est désobéissant avec son père, jamais son statut d'enfant ne va changer, jamais il ne va cesser d'être son enfant, et jamais un père ne va cesser d'être père. Il en va de même pour Dieu envers ses enfants. L'amour de Dieu est inconditionnel et donc ne dépend pas de notre performance. C'est ça que l'on appelle la grâce. En tout cas, bien que je respecte votre opinion, si vous croyez à la perte du salut, eh bien vous l'avez déjà perdu. Car si votre salut est basé sur vos œuvres et votre performance, est bien désolé, mais vous avez déjà échoué. Le salut est basé uniquement sur l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix et c'est par la foi seulement qu'il s'obtient. De plus, à la conversion, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Comment Dieu nous scellerait pour ensuite nous déceler à chaque fois qu'on abandonne, pour ensuite nous être scellés du Saint-Esprit quand on revient? Le Seigneur ne s'amuse pas avec nous et sa fidélité est telle qu'il va nous garder selon ses promesses. Si on lui appartient vraiment, vous pouvez être garanti qu'il va tout faire pour nous ramener dans le droit chemin et cela, peu importe comment profond on peut s'enfoncer dans le péché, et cela parce qu'il est un Dieu tellement fidèle et d'une immense bonté, et que son amour pour nous est d'une profondeur absolument indescriptible avec des mots humains. Son amour n'a pas de fin. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais perdues, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10.27-30. En tout cas, juste vous dire que quand je suis arrivée chez ma coiffeuse, j'étais tellement remplie du Saint-Esprit que ma coiffeuse était très touchée de voir et de sentir cette joie et cette présence du Seigneur en moi. Elle m'a serrée dans ses bras avec une grande bienveillance. J'ai ensuite témoigné de ce que Dieu avait fait dans ma vie aux deux femmes qui étaient là et elles étaient très touchées de tout cela aussi. Une de ces femmes était une chrétienne rétrograde qui avait abandonné l'Église. Elle m'a dit que mon histoire l'avait tellement touchée qu'elle pensait sérieusement retourner à l'Église. Gloire à Dieu. Ce n'est que le commencement d'une grande œuvre que le Seigneur va faire à travers moi. Le plus difficile fut de me représenter de nouveau à mon travail en tant que Bernard. Comme je vous l'ai dit précédemment, au début c'était très humiliant de me trouver en face de mes collègues de travail. Mais je le faisais de tout mon cœur pour le Seigneur. Je sentais une grande paix en moi et le Seigneur voulait que je marche la tête haute et pas dans la honte. Après tout, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi qui compte, mais bien ce que le Seigneur pense de moi. Beaucoup de gens me demandaient qu'est-ce qui m'était arrivé, alors je saisissais l'occasion et je leur témoignais de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12.1- de suite à tout cela, je peux vous dire que le chemin vers la pleine délivrance a été très long et très difficile, et que souvent pour chaque victoire arrachée, difficilement à l'ennemi je faisais deux pas en arrière pour arriver à en faire un en avant. Au début j'ai eu quelques rechutes, mais plus je me fortifiais, plus je reprenais du territoire, et plus la victoire était réelle. Notre adversaire le diable se bat farouchement pour nous empêcher de lui reprendre du territoire dans notre vie. J'ai beaucoup appris à ne pas donner d'accès au diable. Concernant les pensées, j'ai appris à ne pas nourrir et surtout à lier les mauvaises pensées et les mauvaises paroles en invoquant le sang de Jésus. Je dis souvent, quand je suis confrontée aux mauvaises pensées, je lis cette pensée par le sang de Jésus. C'est très efficace. Sinon, c'est à genoux dans la prière. J'aime bien cette pensée de Martin Luther. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler autour de moi, mais je peux les empêcher de faire un nid sur ma tête. Autrement dit, on ne peut pas empêcher les tentations de venir, mais on ne doit pas les laisser s'établir en nous. Il ne faut pas nourrir, voilà. Mais encore mieux que de ne pas nourrir, c'est de nourrir avec autre chose. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Romains 8.5 Se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint, cela veut dire de se nourrir de tout ce qui est spirituel. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la louange, le jeûne, l'église, la communion fraternelle avec les frères et sœurs, écouter ainsi des chrétiens, servir dans l'œuvre, annoncer l'évangile aux autres, sont tous des moyens de se nourrir spirituellement. C'est ça que ça veut dire de laisser Dieu nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis délivrée complètement de la transsexualité et de l'homosexualité. Évidemment, il y a toujours des tentations, mais je ne vis pas dans le péché. Je me garde pur dans mon cœur autant que je peux et je ne me relâche pas dans ma consécration au Seigneur. Je laisse le Seigneur me transformer et me donner une intelligence nouvelle. Je me nourris de la bonne nourriture spirituelle. De plus, ces tentations sont de moins en moins présentes, si je compare au tout début. En tout cas, elles n'ont plus du tout la même emprise sur moi. Et même, c'est surtout les femmes maintenant qui sont mes nouvelles tentations. Cela est un signe normal de ma guérison intérieure. J'ai aussi perdu beaucoup de manières féminines d'après plusieurs de mes amis. J'ai encore du progrès à faire pour m'améliorer davantage, mais patience, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une communion avec le Seigneur que je n'aurais jamais cru possible. Plus je m'approche du Seigneur, plus j'ai soif de le connaître encore plus. Gloire à Dieu. Je ressens souvent une très grande présence de Dieu en moi et quelquefois, il m'arrive même d'être transporté intérieurement par de puissants soupirs du Saint-Esprit. C'est comme une onction de puissance. Cela devient souvent très fort quand je parle du Seigneur aux autres. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on dirait qu'il y a une sorte d'onction dans mes paroles qui touche les gens quand je leur parle. C'est quelque chose de bien spécial. Je me suis mis à témoigner comme jamais de ma vie à tous ceux qui m'entouraient. Beaucoup étaient touchés et certains m'ont dit qu'ils ressentaient une grande présence de Dieu près de moi. Il y en a même un qui m'a dit une fois « Ça sent Dieu près de toi. » Wow. Toute la gloire à toi, Seigneur. Je ne suis qu'un vase de terre, bien imparfait, et c'est la grande puissance du Seigneur que je contiens qui touche les cœurs. Très ma main, nous portons ce trésor spirituel en nous commandant des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Très ma 2 Corinthiens 4.7. Je pense bien que ce ne sont pas tant nos paroles qui convainquent les gens, mais bien plus la présence du Seigneur en nous. Quand les gens voient la gloire du ressuscité sur notre visage, c'est ça qui les convainc vraiment. Quand ils voient nos yeux qui brillent de la lumière du Seigneur, c'est ça qui les touche vraiment. Quand ils voient notre joie et notre sourire, c'est là que Dieu les touche dans leur cœur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je pense bien qu'il soit très important de développer un peu plus sur cela. Si nous voulons briller et être une lumière dans les ténèbres, il faut passer du temps avec notre Maître et notre Seigneur, car c'est de lui seul que vient la lumière. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Éphésiens 5.8-9. Aujourd'hui, je me rends compte avec une grande tristesse que beaucoup de chrétiens sont tristes et malheureux. Leur vie est un lourd fardeau et ils sont accablés par toutes sortes de maux. Il y a beaucoup d'amertume et de ressentiment dans leur cœur. Ils vivent dans l'angoisse et dans la frustration. Ils n'ont pas de victoire sur leur péché et marchent dans la défaite. Ils témoignent du Seigneur aux autres avec des paroles, mais leur cœur les trahit et leur visage triste et terne reflète beaucoup plus l'obscurité que la lumière. Le Seigneur a dit de ce peuple « Il n'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur il est loin de moi. » Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Ésaïe 29.13. Savez-vous quoi? J'ai longtemps été ce genre de chrétien tiède et vraiment malheureux. Le Seigneur m'a fait passer au four de sa correction divine pour me façonner et surtout pour me purifier, mais bien que je ne sois toujours pas parfait, j'en suis sorti complètement transformé aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là comme moi. Voici ce que je tiens à vous dire de tout mon cœur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9.10. Ensuite, la crainte du Seigneur amène toujours l'obéissance, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Jérémie 32.40. Ensuite, l'obéissance amène à la présence et à la bénédiction de Dieu dans notre vie. qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple. Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Psaume 24.3-5. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants s'ils respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Psaume 103.17-18. Ensuite, la présence du Seigneur dans notre vie amène sa puissance. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Jean 15.7. Pour résumer, la crainte de l'Éternel mène à l'obéissance mène à la présence et à la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu mène à la puissance et l'onction. Voilà le schéma. Le problème de base qui se pose, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de l'Éternel dans leur cœur et prennent le péché à la légère dans leur vie. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de son autorité, c'est une profonde révérence envers le Seigneur, c'est de trembler devant sa parole et de marcher dans l'obéissance. Beaucoup ne marchent pas dans l'obéissance et font de la grâce une licence pour vivre dans leur péché. Ils vont utiliser un verset comme un Jean 1.9 comme parapluie à leur vie de désobéissance et justifier leur péché en disant que la chair est faible. Alors j'ai un gros problème avec ça et surtout j'ai des versets pour cela, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Galates 5.24. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Romains 6.11. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2.24. Beaucoup ne passent pas du temps de qualité avec le Seigneur. Leur vie de prière est quelque chose de micro-ondes, du fast-food spirituel, vite et rapide. Beaucoup vont passer des heures devant leur télévision alors que l'humanité s'en va en enfer, mais ont de la difficulté à passer 15 minutes par jour dans la prière à intercéder pour leurs proches. Beaucoup vont laisser toutes sortes de choses les éloigner de Dieu, comme les convoitises, les soucis, l'argent, le travail, etc. Nous devons absolument mettre Dieu à la première place dans nos vies si nous voulons marcher dans la victoire. Nous devons être absolument consacrés dans la prière et la lecture de la Bible si nous voulons briller dans ce monde. Si Dieu n'a pas d'impact sur nous, comment aurons-nous un impact sur les autres ? Je vous dis cela sincèrement de tout mon cœur, et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, j'espère tellement que Dieu va vous toucher là où vous êtes, présentement et vous conduire dans cette sainte crainte de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2.20. Écoutez-moi bien, ce qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur, c'est notre nature égoïste, notre vie centrée sur nous-mêmes et non sur Christ. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez, Romains 8.13. Croyez-moi, cela m'a pris 20 ans pour le comprendre, alors vous avez vraiment l'opportunité de le comprendre maintenant. Imaginez un arbre. La racine de l'arbre, c'est la vie centrée sur soi. Il y a deux troncs principaux, que sont l'orgueil et la convoitise, et il y a les branches, qui sont les péchés du cœur, et les fruits qui sont les péchés extérieurs. Tant que la racine est là, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Il faut donc arracher la racine et la faire mourir. Mais ensuite, il faut faire un nouvel arbre dont la racine sera celle de la vie centrée sur Christ, les deux troncs principaux seront l'obéissance et la foi, les branches seront la prière et la lecture de la parole de Dieu, la louange, le jeûne, l'enseignement, l'assemblée et la communion avec nos frères et sœurs, le service dans l'église et envers les autres, annoncer la parole de Dieu aux autres, etc. Et les fruits seront les neuf fruits de l'Esprit tels que décrit dans Galates 5.22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais beaucoup diront, comment fait-on pour se débarrasser de la vie centrée sur soi? Il n'y a pas de secret, il faut mourir à soi-même. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2.20. Comment fait-on? Tout commence dans le brisement et la repentance de la même manière que comme nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Il faut reconnaître notre profonde misère et notre incapacité face à nos péchés. Il faut dire au Seigneur que nous ne voulons plus marcher selon notre nature égoïste, selon notre petit moi et demander au Seigneur de régner sur le trône de notre vie. Jésus doit être le Seigneur de notre vie. Alors il doit absolument régner sur notre vie. Dans beaucoup de nos églises, on enseigne beaucoup à recevoir Jésus comme sauveur, mais on ne met pas autant d'importance sur faire de lui le Seigneur de notre vie, ce qui est une grave erreur. Voilà pourquoi tant de chrétiens marchent dans la défaite et sont endormis spirituellement et pourquoi il n'y a pas de réveil. La sanctification est une marche quotidienne. À tous les jours, nous devons reconnaître par la foi que notre chair a été crucifiée à la croix avec ses passions et ses désirs et on doit reconnaître par la foi qu'on ne doit plus marcher selon notre propre nature qui se corrompt par ses convoitises trompeuses et par la foi, on doit reconnaître qu'on doit marcher en nouveauté de vie en laissant le Saint-Esprit nous diriger. Je vous écris une prière ci-dessous, à vous qui désirez vivre un véritable réveil dans votre vie. Avant de faire cette prière, je vous demande une chose, levez-vous et dirigez-vous dans un endroit paisible, si vous le pouvez, et ensuite réfléchissez à votre vie et à votre engagement devant le Seigneur, et comme il est dit dans Jacques 4.8-10, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, Jean 1.6. Soyez conscient de votre misère, pleurez, lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Une prière de reconsécration au Seigneur pour un véritable réveil. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, Papa, car je reconnais ma grande désobéissance et ma vie centrée sur moi. Je reconnais que je t'ai fait beaucoup de peine par mon comportement égoïste. Je réalise que tu as porté mes péchés sur la croix afin que je meure au péché et que je marche dans une vie juste. Pardonne-moi tellement, Seigneur, toi qui m'as tellement aimé. Je rends les armes devant ton amour et je veux vivre pour toi seulement. Prends mon cœur et prends mon âme. Je te donne tout, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Je ne veux plus régner sur le trône de ma vie. Seigneur, assois-toi sur le trône de ma vie, car toi seul en es tellement digne. Seigneur Jésus, fais ton chemin en moi. J'ai tellement besoin de toi pour diriger ma vie. Je reconnais par la foi que ma chair a été crucifiée à la croix avec ses passions et ses désirs et je reconnais par la foi que je ne dois plus marcher selon ma propre nature, qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, et je reconnais par la foi que je dois marcher en nouveauté de vie. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi tous les jours dans la crainte de ton nom merveilleux et à vraiment passer du temps précieux et du temps de qualité dans ta belle présence et aussi à mourir à moi-même à chaque jour et à te laisser vivre en moi toujours. Aide-moi à être attentif à la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Seigneur, grave profondément Galates 2.20, sur la tablette de mon cœur j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il est vraiment important, comme je vous l'ai dit précédemment, de prendre cela très au sérieux et de considérer que la sanctification est une marche quotidienne, mais aussi un commandement du Seigneur. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1:15-16. Donc, à tous les jours, on doit reconnaître par la foi que la chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Notez bien qu'il ne s'agit pas de crucifier la chair, car la chair a déjà été crucifiée. Lisez bien Galates 2.20. J'aimerais apporter une petite illustration. Être saint, ça signifie d'être pur, et donc de ne pas laisser entrer d'impureté en nous. Est-ce que vous boiriez un verre d'eau qui contient 80% d'eau pure et 20% d'eau d'égout? Ou le boiriez-vous s'il contenait 90% d'eau pure et 10% d'eau d'égout? Ou peut-être que vous le boiriez s'il contenait 99% d'eau pure et seulement 1% d'eau d'égout? Non? Vous ne le boiriez pas? Alors si vous ne le boiriez pas, pourquoi pensez que le Seigneur, qui est trois fois saint, devrait boire votre verre? Quelques mouches mortes infectées abîment tout un flacon de parfum? Ainsi un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. Ecclésiaste 10.1. Bien sûr, on sera toujours pécheur sur cette terre, et on ne pourra jamais arriver à une parfaite sainteté ici-bas. C'est pour cela que le sang de Jésus nous purifie de tous péchés. Mais nous ne devons pas vivre dans le péché et tolérer de la désobéissance dans notre vie. On doit donc aspirer à la sainteté, à 100% en laissant le Saint-Esprit diriger notre vie. Amen. Il s'agit simplement par un acte de foi et d'obéissance de remettre notre volonté au Seigneur et de reconnaître que nous sommes morts au péché et que la chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Il ne faut surtout pas se décourager, car nous allons vivre des échecs, mais la grâce du Seigneur est toujours là pour nous rattraper et nous relever si nous confessons nos péchés et y renonçons. L'important est de faire tout notre possible pour mourir à nous-mêmes à tous les jours en laissant le Saint-Esprit nous diriger. Si vous êtes fidèle, je vous garantis que le Seigneur va vous faire grandir comme jamais de toute votre vie. S'il y a des péchés ou des mauvaises habitudes que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, eh bien habituez-vous avec le jeûne. Il n'y a rien de mieux que le jeûne et la prière pour se débarrasser de mauvaises habitudes. Un jeûne de 2 ou 3 jours est incroyablement efficace pour aller chercher des victoires. Mais surtout, il faut prier beaucoup lors d'un jeûne. La chair meurt dans la prière? Alors, il faut se préparer au combat. Une autre chose importante, c'est de prendre l'habitude de prier souvent à genoux dans une attitude d'humilité et de révérence devant notre grand roi. La cause de l'homosexualité? Je sens le besoin de faire le point sur le sujet de la cause de l'homosexualité. Beaucoup de monde ne comprennent pas du tout ce qui cause l'homosexualité et pensent à tort que les homosexuels sont nés comme ça. Quel mensonge de l'ennemi! L'homosexualité est d'abord et avant tout une blessure de l'amour qui ensuite s'exprime dans l'immoralité sexuelle avec un partenaire du même sexe. Les blessures sont souvent des blessures affectives très profondes et qui originent souvent dès la tendre enfance, dès la naissance jusqu'à 5 ou 6 ans. Voilà pourquoi beaucoup pensent qu'ils sont nés comme ça. Mais ça peut aussi être des blessures subies un peu plus tard à l'adolescence. Dieu ne crée pas des homosexuels, car Dieu ne peut pas créer le péché, il est un Dieu trois fois saint, ne l'oubliez jamais. De la même manière que Dieu ne peut pas créer des ivrognes, il ne peut pas créer des homosexuels. Par contre, Dieu ne condamne pas les homosexuels, mais ce que Dieu condamne c'est l'homosexualité. Ce n'est pas le pécheur que Dieu condamne, mais bien le péché. De la même manière, Dieu ne condamne pas les ivrognes, mais il condamne l'ivrognerie. Donc que ce soit bien clair, que Dieu ne condamne pas le pécheur, mais bien le péché. Ce qui se produit, c'est que peu importe qui on subit tous des blessures, et cela dès notre naissance. Certaines blessures se guérissent plus facilement, mais d'autres peuvent créer un grand manque intérieur ou un manque affectif profond et amener des troubles majeurs qui vont se manifester plus tard dans la vie adulte et mettre des décennies à être guéris. On est aussi tous différents, certains sont beaucoup plus sensibles que d'autres face au traumatisme qu'ils subissent. Laissez-moi vous expliquer plus exactement ce qui se passe. Écoutez-moi bien. On grandit tous avec des blessures. Avec nos blessures, on a deux choix, ou bien on se tourne vers Dieu pour qu'il nous guérisse, ou bien on se tourne vers le diable pour qu'il nous détruise. Et l'ennemi de nos âmes sait exactement quoi faire avec nos blessures pour nous détruire. Si on ne se tourne pas vers Dieu pour une véritable guérison, eh bien on va avoir absolument besoin de combler notre plus grand manque et inévitablement on va se tourner vers le péché pour remplir notre vide intérieur. Le cœur humain ne peut pas supporter d'être vide. Et comme j'ai dit, on va se tourner vers ce qui répond le plus à notre plus grand manque, selon les désirs de notre cœur. Certains vont se tourner vers l'alcool, d'autres vers la drogue ou les richesses matérielles, certains vont se tourner vers les loisirs de toutes sortes, d'autres vont devenir des accros du boulot, mais d'autres vont aussi se tourner vers l'immoralité, dont certains vont se tourner vers l'homosexualité. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Romains 1.24. Il y a toutes sortes de raisons différentes qui conduisent à l'homosexualité, mais la base est toujours une blessure de l'amour. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Romains 1.27. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent qu'un condom peut les protéger. Quel mensonge ! Un condom va peut-être te protéger de certaines maladies, mais sois certain qu'un condom ne pourra jamais te protéger des forces spirituelles démoniaques dans le monde invisible qui ont des droits d'accès acquis et tout à fait légitimes sur toi si tu leur laisses la porte ouverte. Une porte ouverte, c'est un péché clairement condamné dans la parole de Dieu que tu pratiques. Et si la personne s'endurcit dans son péché, la prochaine étape pour les démons sera de créer une forteresse, c'est-à-dire une colonie de démons qui auront érigé un droit d'accès à temps plein sur toi. À ce niveau-là, les liens d'esprit impur sont impossibles à briser. Seule la prière d'autorité et de délivrance par le sang de Jésus-Christ peut les briser. Notez que je ne parle pas de possession, mais bien de liens spirituels. Donc, l'homosexualité est due à une blessure de l'amour, ensuite à la désobéissance à la parole de Dieu, et elle est entretenue par des liens d'esprit impur par la suite. C'est mon opinion personnelle, mais je pense bien que ce soit une opinion valable et sérieuse qui mérite d'être considérée, puisque j'ai vécu plus de 20 années avec ce combat dans ma vie, et que surtout je ne parle pas juste comme ça en l'air. Sans vouloir être prétentieux, j'ai du vécu dans le domaine et j'ai été victime assez longtemps pour pouvoir révéler ce que j'ai vécu et surtout ce que j'ai compris par la direction du Saint-Esprit. En résumé, on est des êtres physiques, mais on est aussi des êtres spirituels et ce serait se mentir à soi-même que de le nier. Ensuite, peu importe qui on est tous le même grand vide profond que seul Dieu peut remplir totalement et parfaitement, parce que le vide profond de notre cœur a la forme parfaite de Dieu. Exactement comme si on avait un casse-tête qui contiendrait seulement des morceaux. Dieu est le cœur humain. Ils rentrent parfaitement l'un dans l'autre. Par contre, si on essaie de remplir ce vide profond avec le péché, on n'arrivera jamais à être satisfait, tout simplement parce que le péché ne pourra jamais remplacer l'amour de Dieu. On ne pourra jamais remplacer un profond besoin spirituel par quelque chose de charnel. Le péché laisse toujours un goût amer dans notre cœur parce qu'il produit la déception et la destruction. Le péché nous donne toujours l'impression qu'il va nous combler, mais ensuite, on se rend compte qu'on est plus vide qu'avant. Voilà pourquoi tous les gens qui sont fortement accrochés à toutes sortes de dépendances en veulent toujours plus et n'en ont jamais assez. Ils ont besoin de plus en plus fort pour arriver à expérimenter le même effet et petit à petit, c'est le cercle infernal de la destruction et la mort. Plus j'en prends, plus je me sens bien, mais aussi plus je me sens vide quand j'en ai pas et plus j'en veux plus. Celui qui pêche est esclave de ce qui a triomphé de lui, voilà. Le diable nous offre le plaisir du péché, mais il nous en cache toujours le prix. Et croyez-moi, ce prix est très élevé. Des vies brisées et meurtries, des dépendances destructrices, des conflits perpétuels, des regrets amers, des maladies, des malédictions, les portes qu'on ouvre aux démons, les blessures qu'on fait à ceux qui nous aiment le plus, les familles brisées, le divorce, les enfants qui en payent la note, et finalement à plus grande échelle la société, qui est dans un état de décadence incroyable, sans valeur et sans espoir. En fait, il n'y a pas tant de différence entre les gens immoraux, les adorateurs d'idoles, les adultères, les homosexuels, les voleurs et les ivrognes. Ils cherchent tous à remplir leur vide profond avec le péché selon les désirs de leur cœur. Tout ce qui remplace Dieu est une idolâtrie. Aujourd'hui, il n'y a plus autant d'idoles, sous la forme de statues recouvertes d'or, mais il y a beaucoup d'autres sortes d'idoles beaucoup plus subtiles et aussi beaucoup plus puissantes. Le diable veut que tu te prosternes devant l'immoralité, il veut que tu te prosternes devant la fornication, il veut que tu te prosternes devant l'adultère, il veut que tu te prosternes devant la pornographie, il veut que tu te prosternes devant l'homosexualité, il veut que tu te prosternes devant un homme ou une femme, il veut que tu te prosternes devant la créature, il veut que tu te prosternes devant l'argent, il veut que tu te prosternes devant la drogue, il veut que tu te prosternes devant une bouteille d'alcool, il veut que tu te prosternes devant la violence, il veut que tu te prosternes devant la télévision, il veut que tu te prosternes devant la gloire et les convoitises de ce monde. Tout ce qui remplace Dieu est une idolâtrie. Alors vers qui vas-tu te prosterner? Vers Dieu ou vers les idoles corrompues de ce monde en ruine? À toi de choisir. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'un jour tous les genoux vont fléchir devant le Dieu trois fois saint. Beaucoup vont se tenir devant Dieu dans la crainte, et le tremblement est dans l'angoisse la plus totale. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment et ma promesse est loyale, je n'y changerai rien tous les humains, à genoux, me jure en fidélité. Ils diront de moi c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve force et loyauté. Tous ceux qui m'auront combattu viendront à moi, la tête basse. Osée 45.23. Beaucoup vont se tenir devant Dieu dans la crainte, et le tremblement est dans l'angoisse la plus totale dans l'attente du jugement terrible qui va tomber sur eux, l'enfer éternel. Mais ceux qui lui appartiennent, les vrais adorateurs, seront dans la plus grande joie, car ils verront enfin Dieu tel qu'il est. Pour nous qui sommes ses enfants, ce sera un moment extraordinaire et absolument merveilleux. Notre papa va nous accueillir et nous, ses enfants, nous allons régner avec lui dans la gloire et dans le paradis pour l'éternité. Dieu va aussi nous donner des récompenses et nous recevrons des privilèges incroyables. Il n'y aura plus de péché, ni douleur, ni pleurs. Wow! Quelle espérance! En effet, Dieu est juste, il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants, il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. 2 Thessaloniciens 1.6-10. Au jugement dernier, c'est le péché qui va condamner le pécheur. Dieu est le juge qui va simplement faire appliquer le jugement pour les offenses commises. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper au jugement, et c'est par la foi en Jésus-Christ. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qui était certain d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus juste devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6.9-11. À ceux qui portent un regard de jugement sur les homosexuels, eh bien sachez que si vous êtes dans un péché quelconque et que vous n'avez pas reçu le pardon de vos péchés en Jésus-Christ, votre condamnation sera aussi la même que ceux qui pratiquent l'homosexualité. Alors, il ne faut pas juger les autres en s'estimant meilleurs qu'eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3.23. En fait, quand on juge l'autre, c'est simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'examiner soi-même et de voir la profonde misère qui est en nous. Si tu vois ta profonde misère en toi-même, quand tu relèveras la tête, tu n'auras pas un regard de condamnation pour les autres, mais plutôt un regard de compassion, et tu diras plutôt « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je vais prier pour toi et j'aimerais tellement que tu puisses comprendre comment Dieu t'aime et peut te libérer. » C'est ça la paille et la poutre dont Jésus parlait. Même dans l'Église de Jésus-Christ, et cela je le dis avec tristesse, il y en a beaucoup qui nous jugent à cause de ce qu'on était. Des homosexuels, alors que beaucoup d'entre nous marchons fidèlement dans l'obéissance au Seigneur. On dirait qu'il y a des péchés, cool, dans certains milieux chrétiens. Tu peux dire que tu étais un drogué, un voleur ou même un tueur, mais ne dis jamais que tu étais un homosexuel, car tu vas en subir le rejet et la condamnation. Mais n'oubliez jamais ce que la parole de Dieu dit, voilà ce qui était certain d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus juste devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6.11 au lien de regarder à ce qu'on était, rendez plutôt gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Notre véritable valeur devant Dieu. On estime de la valeur d'une chose par le prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. Connaissez-vous la toile de Picasso, le garçon à la pipe? Ce tableau de Picasso s'est vendu $104,168,000. Ce tableau a beaucoup de valeur parce qu'on était prêt à payer très cher pour l'obtenir. Connaissez-vous vraiment votre valeur réelle? N'oubliez pas qu'on estime de la valeur d'une chose par le prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. Quel est le prix que le Seigneur, notre Père, a été prêt à payer pour nous avoir? La réponse est le prix inestimable de son Fils unique. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6.20. Réalisez-vous vraiment que le sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés, ce n'était pas le sang d'un simple animal ou même d'un homme, mais c'était vraiment le sang de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, Jean 1.14. Le sang qui est sorti de cette chair est donc vraiment le sang de Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point le sang de Jésus est précieux? Voilà pourquoi le mystère de la croix est si grand. C'est le sang de Dieu qui a été versé pour nous. Ça me dépasse encore plus de réaliser à quel point le sang de Jésus représente véritablement tout l'amour que Dieu a pour nous. C'est aussi pour cela que seul, avec le sang de Christ, on peut être délivré définitivement de nos péchés. Rien ne pourra jamais remplacer le sacrifice de Dieu lui-même. Quand le Christ est entré une fois, pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang, et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Hébreux 9.12. Cher ami, de tout mon cœur, je tiens à vous dire ceci, il n'y a pas de péché qui est trop grand et dont le sang de Jésus ne peut vous purifier, et il n'y a rien au monde qui est plus grand que le sang de Jésus pour vous pardonner de tous vos péchés. Pensez à vos plus pires péchés, à vos péchés les plus sales et les plus dégoûtants, à ces péchés que vous regrettez le plus amèrement avoir commis et dites-vous que le sang de Jésus vous a totalement, absolument, irrémédiablement, complètement et parfaitement lavé de tous ces péchés. Alléluia! Alors jetez la culpabilité de vos plus pires péchés à la croix du calvaire et jetez-vous à genoux devant le Seigneur et dites-lui: Seigneur, j'abandonne tous mes péchés et toute ma culpabilité au pied de ta croix, lave-moi complètement par ton sang si précieux. Merci pour ton si grand pardon. Merci pour ton amour infini pour moi. Merci pour la délivrance si grande que tu me procures par ton sang si précieux. Au nom de Jésus, amen. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1.7. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1.9. Une autre chose qui m'a beaucoup touchée et édifiée, mais surtout qui m'a fait comprendre à quel point Dieu nous a aimés et combien notre valeur est inestimable devant Dieu, c'est quand j'ai vraiment réalisé combien le prix que Dieu a payé pour nous est vraiment inestimable. Notre Père a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il aimait le plus au monde en son Fils Jésus, pour nous qui étions des pécheurs rebelles. C'est comme si Dieu avait donné son Fils unique à des loups parce qu'il les a tellement aimés qu'il a accepté de les voir déchiqueter et dévorer son Fils unique devant lui parce qu'il savait que ça sortirait les loups de leur profonde misère. Comprenez-vous cet amour? Moi, je ne suis vraiment pas capable, c'est au-dessus de ma capacité, c'est un amour indescriptible, c'est un amour au-dessus de toute compréhension et intelligence. C'est un amour tellement profond. Écoutez-moi un instant. Pensez à la personne qui est la plus précieuse à vos yeux, Peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être que c'est votre époux ou épouse ou un ami. Imaginez réellement que vous donnez cette personne si chère et qui est la plus précieuse à vos yeux et que vous aimez le plus au monde, que vous la donnez à des loups affamés et méchants parce que vous aimez tellement ces pauvres loups que vous savez que ça va les sortir de leur profonde misère. C'est comme ça que Dieu vous a aimé. C'est à ce point-là que Dieu vous a aimé. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu, à plus forte raison serons-nous sauvés, par lui, de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Romains 5:6-10. Alors, quelle est votre valeur réelle devant Dieu ? Notre valeur est inestimable, puisque que le prix de Jésus est inestimable. Il nous aime totalement et il veut tellement qu'on grandisse dans sa bénédiction et dans sa présence et qu'à notre tour, on lui donne ce qu'on a de plus précieux, notre propre vie. Parce que tu as obéi à mes ordres. Exode 22:18. Est-ce qu'il y a quelque chose de précieux dans votre vie que Dieu vous demande de lui donner, mais que vous ne parvenez pas à vous défaire? Je pense à Abraham qui a offert à Dieu Isaac son fils unique. Comment cela a dû être pénible de le faire et surtout qu'il a dû marcher 3 jours pour se rendre à la montagne où il devait offrir le sacrifice. Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à son tendre et précieux fils qu'il allait sacrifier pour Dieu. Le Seigneur lui a laissé beaucoup de temps pour changer d'idée. J'imagine qu'il a certainement pleuré en pensant à son fils bien-aimé en revoyant les images de la vie de son fils Isaac, sa naissance, ses premiers mots, son premier sourire. Le soir venu, il le voyait dormir paisiblement à ses côtés. Il a fort probablement caressé son petit visage en pleurant. Abraham avait attendu tellement longtemps pour avoir ce fils de la promesse né dans sa vieillesse et voilà, il fallait le sacrifier pour obéir au Seigneur ? Comment Abraham a dû se sentir angoissé en marchant vers la montagne pour offrir l'holocauste de son fils unique. Par la foi, Abraham est allé jusqu'au bout et il a choisi d'obéir à Dieu, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir peur. Il était un homme avec des sentiments tout comme nous. Mais heureusement, au dernier instant, l'ange de l'Éternel est apparu à Abraham et lui a ordonné de ne pas sacrifier Isaac, mais du ciel l'ange du Seigneur l'interpella à Abraham, « Abraham ». « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonnait « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. » Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. Genèse 22:11-12. Souvent, le Seigneur nous met à l'épreuve, jusqu'au tout dernier moment, pour voir si on le craint vraiment et si on est prêt à lui donner le meilleur de nous-mêmes et pas seulement des restants. Après tout, le Seigneur a donné le meilleur pour nous. Alors donnons-lui aussi notre meilleur dans tous les domaines de notre vie. Amen. Quelquefois, marcher dans l'obéissance, ça nous fait peur. On doit quitter notre zone de confort et se jeter dans l'inconnu. Ça peut même faire très peur d'obéir au Seigneur et de sacrifier des choses auxquelles on tient tant. Qu'est-ce que Dieu vous demande de sacrifier pour lui ? Ça peut être de demeurer fidèle avec votre femme ou votre mari au lieu de tout abandonner dans le divorce. Ça peut être parce que Dieu vous demande de renoncer à cette personne ravissante qui vous fait des avances au bureau et qui vous incite à commettre l'adultère. Ça peut être parce que Dieu vous demande de faire passer vos amis avant vous-même. Ça peut être parce que Dieu vous demande de couper cette obsession pour la télévision et l'Internet et de passer beaucoup plus de temps dans la prière pour les âmes perdues. Ça peut être parce que Dieu vous demande d'arrêter de vous lamenter parce que ça va mal et de lui offrir le sacrifice de vos louanges. Ça peut être parce que Dieu vous demande d'abandonner cette relation avec un inconverti qui vous détruit, mais dont vous êtes dépendant affectivement. Ça peut être parce que Dieu vous demande de lui être fidèle dans la solitude de votre célibat, alors que vous flirtez avec le monde et que vous ne voulez pas attendre l'être cher qu'il a prévu pour vous. Ça peut être que Dieu vous demande de garder vos mains propres et votre cœur pur, mais que vous aimez jouer avec le péché dans votre tête, avec les images que vous regardez et avec votre corps vous vous livrez honteusement dans l'impudicité. Ça peut être parce que Dieu vous demande de sortir tout ce qui n'est pas de lui de votre maison, mais que vous continuez à faire à votre tête. Ça peut être parce que Dieu vous demande d'arrêter de vous enivrer ou de vous droguer à chaque occasion et de vous attacher à un groupe de soutien ou vous être redevable envers quelqu'un. Ça peut être parce que vous avez une relation amoureuse avec le sport ou avec votre travail et que cela passe avant votre époux ou épouse et vos enfants. Ça peut être parce que Dieu vous demande de partager vos richesses généreusement, mais que vous préférez vous enrichir pour votre seul bien-être personnel. Ça peut être parce que Dieu vous demande d'abandonner vos ambitions et vos rêves pour faire place à sa volonté pour votre vie. En fait, ça peut être pour une foule de raisons que le Seigneur nous demande de nous sacrifier, mais une chose est certaine, il y a une grande bénédiction à marcher dans l'obéissance, et cela même si ça nous fait peur, et qu'on se sent découragé, même si on a l'impression qu'on perd en obéissant, alors que dans la réalité on marche dans la victoire et après l'épreuve, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Alléluia! Dieu est fidèle quand on marche dans l'obéissance. Abraham, après avoir été soumis à l'épreuve, a reçu cette parole, « Voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à mes ordres. » Exode 22.16-18. Que dois-je faire pour être sauvé? J'aimerais ajouter quelque chose pour ceux qui vont me lire et qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Mes chers amis, de tout mon cœur, Dieu vous aime vraiment beaucoup. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3.16. C'est toi ça, ce quiconque. Mettez votre propre nom à la place de quiconque. Dieu veut plus que tout que vous vous tourniez vers lui de tout votre cœur dans l'humilité et la repentance et que vous reconnaissiez votre état de pécheur devant lui. On est tous pécheurs, et tous on mérite la condamnation éternelle, séparés de la gloire de Dieu pour l'éternité. L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains 3.10, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3.23. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6.23. Le premier pas, c'est donc de reconnaître votre état de pécheur devant Dieu. Le deuxième pas, c'est de se repentir, c'est-à-dire de renoncer, d'abandonner vos péchés dans votre vie, de changer de comportement. Mais Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tous lieux, à changer de comportement. Acte 17.30. Le troisième pas, c'est de croire sincèrement que Jésus est mort à votre place en prenant sur lui vos péchés et qu'il est ressuscité des morts et que seulement Jésus peut vous sauver et personne d'autre. Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit et Dieu rend juste celui qui croit, c'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. Romains 10.9-10. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. 1 Pierre 2.24. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au père autrement que par moi. Jean 4.6. Le quatrième pas, c'est de parler à Jésus maintenant, invitez-le dans votre vie, demandez-lui de devenir votre sauveur et votre Seigneur par une prière toute simple, mais d'un cœur sincère. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3.20. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1.12. Si tu veux faire ce pas de foi et donner ta vie à Dieu, alors retire-toi dans un endroit tranquille et dans une attitude d'humilité et de repentance, viens simplement devant Dieu dans la prière. Réfléchis à ta vie et à tes désobéissances, à tes péchés qui te détruisent et mènent à ta perdition. Réalise ta profonde misère et pleure devant ta condition, ensuite tourne-toi vers Jésus et fais cette prière ci-dessous de tout ton cœur. Tu peux ajouter des mots, comme tu le désires selon ton cœur. Tu as besoin de faire cette prière une seule fois? Dieu est fidèle et entend nos prières? Donner sa vie à Dieu dans une prière est un petit geste, mais ensuite ça demande une grande implication dans toute votre vie. Dieu doit devenir votre sauveur, mais il doit aussi devenir votre Seigneur et donc régner sur toute votre vie. On doit donc décider de marcher dans l'obéissance à sa parole et à être fidèle. La prière pour demander à Jésus de vous sauver. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai tellement besoin de ton pardon. Oui, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, un pauvre pécheur, pardonne-moi de tous mes péchés et purifie-moi de toutes mes iniquités. Je veux t'abandonner tous mes péchés. Je veux renoncer à tout ce qui est mal pour me tourner vers toi seul. Je suis perdu et incapable de me sauver par moi-même. Seul toi peux me sauver parce que tu as payé le prix pour cela. Et ce prix, c'est le prix de ton sang précieux pour mes péchés. Je crois sincèrement que toi, Jésus, tu as été puni à ma place et que tu as subi sur la croix la condamnation que je méritais. Tu es mort pour mes péchés et tu as payé mes dettes envers Dieu le Père. Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans mon cœur et à devenir le Sauveur et le Seigneur de ma vie. De tout mon cœur, je te reçois. Merci pour tout cet amour que tu as eu pour moi et parce que tu fais de moi ton enfant. Merci tellement parce que tu m'as sauvé pour que je sois avec toi pour l'éternité. Fais de moi ce que tu veux que je sois et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Je te donne tout, Seigneur? Oui. Prends tout, Seigneur. Fais ton chemin en moi et règne sur mon cœur et sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous donne un beau verset de la parole de Dieu pour que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle si vous croyez en son nom. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5.13. Si vous avez demandé à Jésus de vous sauver en faisant cette prière, ce sera pour vous le début d'une nouvelle vie. Lisez la Bible chaque jour, fidèlement pour mieux connaître le Seigneur. Parlez à Dieu chaque jour dans la prière et même dans vos activités quotidiennes. Faites-vous baptiser et joignez-vous à d'autres croyants dans une église où Christ est prêché et où la Bible est l'autorité finale. Témoignez de ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous serez surpris combien tout deviendra clair et que vous comprendrez la Bible parce que vous allez vraiment grandir spirituellement. Si vous n'avez pas fait cette prière parce que vous ne vous sentez pas prêt maintenant, ce n'est pas grave, Dieu est patient et comprend vos combats et vos doutes. Mais il y a une chose que je vous demande de faire. Continuez votre recherche et demandez sincèrement à Dieu qu'il se révèle à vous. Ne basez pas votre opinion sur vos doutes, mais transformez vos doutes en des questions et ayez le courage de regarder comment la Bible répond à ces questions. Je vous garantis que vous allez être surpris des réponses que la Bible va vous donner. Vous pourrez alors baser votre opinion sur la vérité de la parole de Dieu et enfin, je l'espère de tout mon cœur, vous serez prêt à donner votre vie à Dieu. Notre héritage extraordinaire. Je ne peux pas ne pas vous parler de notre espérance extraordinaire qui nous attend à nous les croyants. Moi, il m'arrive très souvent de penser au ciel et je vous avoue que j'ai vraiment hâte d'être de l'autre côté. Nous, ces enfants, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Notre vraie patrie est dans le ciel. Nous tous qui lui appartenons, nous sommes tous des princes et des princesses, puisque que nous sommes tous les fils et les filles du grand roi. Alléluia. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don, je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21.7. Nous régnerons dans une gloire indescriptible avec notre Père céleste et Jésus notre Sauveur. Nous aurons part à un héritage merveilleux dans le ciel pour l'éternité avec Dieu. Il n'y aura plus de souffrance. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21.4. Ce sera un royaume merveilleux dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Nous verrons enfin Dieu face à face. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci: quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui sera pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. 1 Jean 3.2-3. On aura de nouvelles responsabilités et des privilèges incroyables. Nous aurons des corps glorifiés d'une grande beauté et sans infirmité, à l'image de notre Seigneur. Nous sommes fils et filles du Seigneur, nous aurons donc un statut supérieur aux anges, qui bien qu'ils soient élevés en gloire et en puissance, ils sont des serviteurs et non des fils de Dieu. Avez-vous déjà lu la description de la nouvelle Jérusalem céleste? Selon les mesures données, elle aura 2500 km de large par 2500 km de long par de 2500 km de hauteur. Apocalypse 21.15-16o. Pourquoi 2500 km de hauteur? Je pense bien qu'on ne va pas seulement se déplacer à pied, mes chers frères et sœurs. On va très certainement voler dans les airs, comme les anges dans ce royaume céleste. Imaginez-vous donc que le Seigneur a mis 6 jours pour créer le monde magnifique dans lequel nous vivons, mais que ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'il nous a dit qu'il allait nous préparer une place dans les cieux, et qu'il prépare encore cette place pour nous. Wow! Ce sera tellement magnifique pour nous, ses enfants bien-aimés. Alléluia! Pensez à ça quand vous êtes déprimés, lol. La muraille était construite en jaspe et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de turquoise et la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du verre. Apocalypse 21.18-21. Je pense qu'on va devoir s'habituer avec ça, les pierres précieuses, lol. Voici un de mes versets favoris: je pense à vous dans mes prières, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse, qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Éphésiens 1.16-19. J'espère que cette espérance vous incite encore plus à marcher dans l'obéissance et à demeurer ferme dans l'épreuve, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et que vous recevrez des belles récompenses de notre Seigneur. La couronne de victoire vous sera pleinement accordée si vous persévérez dans le Seigneur. Gloire à Dieu. L'appel de Dieu. En conclusion, je voudrais vous dire que le Seigneur fait de grandes choses, et que maintenant je suis un membre ouvrier dans le plus grand champ missionnaire au monde, le Québec. Il y a seulement 0,05% de chrétiens professant le salut, par la foi en Jésus au Québec. Assez surprenant. Eh bien moi, je n'accepte absolument pas cette situation et je vais me battre pour gagner le plus d'âmes possible pour le Seigneur. Je crois que les miracles que Dieu fait partout dans le monde, il peut aussi les faire au Québec. Le Dieu de l'Amérique du Sud, de la Chine ou de l'Afrique est aussi le même Dieu au Québec. Gloire à Dieu. Cette œuvre auquel le Seigneur m'a appelé est quelque chose de merveilleux. Mon pasteur et quelques ouvriers, dont moi-même, avons eu à cœur d'implanter une œuvre au centre-ville de Montréal. Notre ministère est avant tout un ministère de guérison. Notre vision, c'est de toucher, par l'Évangile, les gens qui ont été brisés et meurtris par la vie. Nous avons à cœur les drogués, les alcooliques, les prostituées et les homosexuels, les travestis et transsexuels, les démunis et tous ceux qu'on rejette et méprise. On a fait l'acquisition d'un bâtiment pour implanter la mission en plein cœur d'un des pires quartiers de Montréal, là où il y a beaucoup de misère. Juste au coin de la rue où sera située l'église se trouve l'endroit où les prostituées travesties, transsexuelles et femmes font leur commerce. Je n'en reviens pas moi-même puisque que j'ai déjà fait de la prostitution moi-même sur ce même coin de rue alors que j'étais dans mon péché. Ça ne peut pas être autre chose que la main du Seigneur. Gloire au Seigneur. On est une trentaine de personnes environ, mais beaucoup d'autres se joindront bientôt par la grâce de Dieu. C'est vraiment touchant de voir ces gens se donner au Seigneur et de voir les délivrances et le progrès qu'ils font. On a aussi la vision d'implanter un centre de réhabilitation à long terme pour tous ceux qui en ont besoin. Un peu comme un hôpital de l'âme. Nous avons beaucoup de besoins pour notre nouvelle église. Nous avons besoin de chaises pour l'assemblée, d'un projecteur pour les chants, d'un système de son, d'ordinateur, d'un photocopieur, d'un service pour la Sainte Cène, de lutrin, de matériel pour nos enfants à l'école du dimanche. Tous vos dons pour l'Église seront grandement appréciés et le Seigneur vous le rendra au centuple. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Ça prend des ouvriers au cœur tendre qui ont la compassion pour ceux qui souffrent et qui ont une vision pour l'œuvre. Aussi, priez pour une grande récolte d'âmes. Priez aussi pour que Dieu nous utilise puissamment dans son œuvre et pour qu'on demeure ferme, inébranlable, consacré de tout notre cœur et toujours fidèle à son appel. Priez pour que Dieu nous accompagne puissamment avec des prodiges et des miracles. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Éphésiens 3.20. Que notre merveilleux Seigneur vous touche par son amour et vous surprenne par sa grande puissance. De tout mon cœur. Bernard,